C'est bon.
Oui. Un petit blanc quand même. C'est bien. Bon. Alors, depuis combien de temps habitez-vous Orléans?
7 ans.
Depuis 7 ans. Et qu'est-ce qui vous a amené à vivre Orléans?
Ma famille, simplement. Mon père étant fonctionnaire, j'ai dû le suivre au cours de ces différentes mutations.
Et vous vous plaisez à Orléans ou là, comme ville, ça vous plaît?
Là, je crois qu'il faut séparer la question. Je m'y plais en tant que ville qui est très belle, avec une région qui est très belle, qui est très accueillante sur le plan nature.
Oui.
Et d'autre part, du fait qu'en 7 ans, je m'y suis fait beaucoup d'amis et que tout mon cercle de vie se trouve à Orléans.
Oui.
Et deuxième partie de la question, elle négative, les Orléanais de souche ne sont pas très accueillants.
Les
Les Orléanais de souche ne sont pas
ne
très
sont
accueillants pour
pas.
les nouveaux venus.
Ah bon. Et est-ce que vous comptez rester à Orléans, alors, puisque vos amis sont là et tout
Eh
ça?
bien, actuellement, j'enseigne à côté de Châteauroux
Oui.
et j'étudie à Orléans. Je
Ah.
suis un peu partagé entre les deux, mais pour l'instant, je compte rester dans le centre de la
Oui,
France.
oui. Et plus tard, enfin, quand vous aurez terminé votre maîtrise, tout ça, vous comptez rester, enfin, Orléans
C'est
ou...
possible, ça ne me dérange absolument pas. D'origine, je suis dauphinois, j'adore la montagne. Mais Orléans est très près de Paris, ce qui est un avantage, et n'est pas tellement loin non plus de la montagne
Non,
avec les
non.
moyens actuels de communication.
Oui, bien sûr, oui. Et qu'est-ce que vous faites comme travail? Enfin, vous avez dit, vous êtes...
Alors, en tant qu'étudiant, je finis une maîtrise d'enseignement de physique-chimie. Et en tant qu'enseignant, je suis maître auxiliaire et j'enseigne des mathématiques modernes, des mathématiques classiques, de la chimie et de la technologie.
Oui, c'est ça. Et en quoi est-ce que ça consiste exactement? C'est quoi, au juste, enfin, votre travail
Ben, c'est un,
ce
bon,
que...
c'est un travail d'enseignant, mais avec quand même quelque chose qui est assez surprenant, qui est malheureusement chronique en France, c'est que j'ai fait 4 ans de faculté, où j'ai appris beaucoup de formules, mais je n'ai absolument pas appris mon métier. Et pourtant, j'étais élève-professeur, puisque pendant 3 ans, l'État m'a payé, a
Oui.
payé mes études pour qu'un jour je devienne professeur. Et je me trouve depuis un mois et demi avec des élèves de tout poil, d'une région assez pauvre d'ailleurs, et un peu sous-développée. Et mes problèmes ne sont pas des problèmes de formule, mais des problèmes de langage, de faire passer un message, et d'apprendre la pédagogie, d'apprendre ces choses-là.
Oui, c'est ça. Oui. Et est-ce que vous voulez bien me décrire une journée de votre travail? Une journée, comment est-ce que ça passe, enfin?
Bon, alors journée.
Ça vous gêne pas?
Non. Je vais essayer de vous faire deux réponses puisque j'ai pratiquement deux vies professionnelles séparées. Une journée à Châteauroux, enfin à côté de Châteauroux, dans un tout petit village, grande banlieue de Châteauroux. Levé 7h, 7h moins le quart, 7h15 environ. Bon, petit déjeuner, toilette, les petits préparatifs habituels. Je vais au collège. Et là, soit je vais en cours tout de suite, puisque j'ai des élèves à ce moment-là, soit je vais en salle des professeurs pour préparer mes cours. Bon, et puis toute la matinée se passe comme ça, soit en cours, soit en préparation de cours, soit en travail au laboratoire pour préparer des expériences. Midi ou 1 heure, le repas pris en commun avec les autres professeurs, qui pour la plupart sont très jeunes, sont dans mon genre, donc on mange sur place,
Oui, bien
et
sûr.
on rembraye pour l'après-midi. Et vers 5 heures ou 6 heures, on rentre chez soi. Là, je m'offre un bon petit moment de lecture. J'essaie de me tenir au courant de ce qui se passe autour de moi, tant sur le plan scientifique que sur le plan politique, économique, etc. Et puis après, bon, y a les petites tâches habituelles, c'est-à-dire faire le repas. Ça paraît un peu enfantin, mais il faut quand même manger pour vivre. Et après, la veillée, soit travail personnel pour mes études, soit travail de préparation de cours, soit de la lecture. Soit simplement du repos en écoutant une bonne émission de radio.
Oui, d'accord.
Pas de sortie.
Pas de sortie.
Je suis dans les conditions qui m'interdisent les sorties à
Oui.
Châteauroux. Par contre, Orléans, quand j'y reviens, travaille en faculté,
Oui.
qui se trouve assez loin. Travail personnel aussi. Quelquefois des sorties, le cinéma, quand on n'a pas pu y aller parce qu'on était vraiment en pleine campagne, on apprécie.
Oui.
Et puis, dès que j'ai un instant libre, un mouvement de jeunesse.
Le mouvement de jeunesse.
Oui.
Oui,
il est dans un mouvement de jeunesse et quand je peux y consacrer quelques heures, je le fais avec beaucoup de plaisir.
Mm-hmm.
Entre autres le jeudi soir où j'anime un atelier photo.
Ah oui, d'accord. Et qu'est-ce qui vous plaît et vous déplaît dans votre travail? Est-ce qu'il y a des choses qui vous plaisent vraiment et des choses qui vraiment vous déplaisent dans votre travail parce que...
Qui me plaisent, oui, sinon je ne le ferais pas.
Oui.
Ouais, disons que tout ce que je fais, j'étudie la physique, et puis si je fais de la physique, c'est parce que j'aime ça, en un sens. Ça a ses côtés pénibles, quand on passe des heures sur des formules, ça n'a rien de drôle. Même si on a l'esprit mathématique, ce que je ne pense pas avoir, seulement ça, la physique en elle-même est quelque chose d'intéressant pour moi. Mm-hmm. Chimie, même chose, le travail au laboratoire, même chose. Mes cours, en tant qu'enseignant, je trouve ça passionnant. J'ai entre autres deux petites classes, 6e et 5e, c'est-à-dire 11, 12 ans et 12, 13 ans, qui je fais des mathématiques modernes. C'est une aventure extraordinaire.
Mm-hmm.
On s'amuse comme des petits fous, tant les élèves que le professeur. Pour les plus grands, les mathématiques classiques, c'est moins drôle, ça faut le reconnaître. La chimie et la technologie, ça n'a rien de difficile. Il faut essayer de le présenter. Je prends pour principe que si je ne m'amuse pas en cours, mes élèves non plus.
Mm-hmm.
Et j'ai horreur de ne pas m'amuser et de voir des gens qui ne s'amusent pas. Chose déplaisante, oui, alors là, il y en a quand même quelques-unes. Il y a évidemment toutes les petites choses de la vie courante qu'il faut faire, qui ne sont pas toujours plaisantes, mais pas énormément déplaisantes. Et puis, il y a cet aspect, disons, de notre civilisation qui me déplaît un peu, d'avoir voulu faire ce métier, de ne pas avoir été formé à ça, sauf justement par un mouvement de jeunesse, mais ça, c'est extérieur à l'État.
Ouais.
Ce qui fait que je me heurte à des difficultés qui sont un peu stupides.
Mmh.
En sens qu'elles pourraient être résolues facilement si on m'avait donné la clé,
pour
ouvrir la serrure. Or, je suis obligé de la démonter.
Oui.
Et puis, on se heurte toujours, comme l'éducation nationale est une administration, à sacro-sainte administration avec ses lenteurs, ses choses un peu bizarres qui datent d'un siècle ou deux et qu'on n'a pas encore mis au panier.
Non, non.
Et on se bat contre des moulins. Alors, ça, c'est franchement déplaisant.
Oui, c'est ça. Et si vous n'étiez pas alors élève professeur ou professeur, si vous ne faisiez pas ce métier-là, qu'est-ce que vous aimeriez faire? Si vous n'étiez pas ça.
Autant que possible, un métier de contact.
Un métier de contact.
De contact humain. Fut un temps, j'avais pensé être ingénieur.
Mm-hmm.
Et puis, dans ma petite tête d'adolescent, je pensais à l'ingénieur, l'individu qui est au laboratoire, qui fait des expériences, qui fait de la recherche.
Mm-hmm.
Puis je me suis aperçu que la recherche... Dans un certain nombre de cas, c'était surtout des mathématiques et puis pas de contact humain.
Oui,
et qu'il y avait aussi des ingénieurs qui avaient des contacts humains. La plus grande part des ingénieurs en ont, puisqu'ils sont ingénieurs de fabrication. Enfin, c'est ce qui m'a un peu rebuté. Ce que je veux, c'est pouvoir m'exprimer au milieu d'être vivant, quoi, puis essayer de faire quelque chose en contact. Faire quelque chose pour le plaisir, faire des mathématiques, pour le plaisir des mathématiques, pour la beauté des mathématiques, c'est pas mon genre.
Non. Ah, d'accord. Et alors, comme métier, vous auriez eu contact avec des gens, enfin, je ne sais pas, dans un bureau, dans un bureau où les gens viendraient vous voir pour des interviews ou...
Je ne sais pas. Je crois qu'on peut s'adapter à tout.
Oui.
Enfin,
oui. Toujours quelque chose.
Faire quelque chose de vivant.
Oui, oui. Oui, d'accord. Et enfin, encore une question sur le travail. De plus en plus de femmes mariées travaillent aujourd'hui. Et vous, personnellement, est-ce que vous êtes pour ou contre?
Franchement pour.
Franchement pour.
Franchement pour. J'estime que dans un ménage, si les deux travaillent, ça amène certainement une harmonie beaucoup plus grande que si la femme ne travaille pas parce qu'il y a un tabou qui l'interdit de travailler. Actuellement, on a des moyens techniques qui permettent de simplifier le travail à la maison. Bon, puis les deux en font leur partie. Je vis tout seul, je me fais ma cuisine, ma vaisselle, etc. Ça n'est pas tellement paniquant.
Non.
Et je crois que ça amène peut-être plus de contact et d'enrichissement personnel de chaque côté.
Si les femmes travaillent, c'est ça.
Il y a évidemment un problème. Il y a le problème des enfants. C'est-à-dire que je souhaiterais que ma femme puisse travailler en élevant ses enfants avec, évidemment, ce côté un peu privilégié de la mère. Qui doit avoir des contacts peut-être plus forts que le père avec les enfants. Par exemple, certains métiers le permettent bien, du style l'enseignement, ou certains métiers qui permettent à la femme de se dégager pendant un certain temps, quitte à s'arrêter hein, 2 ou 3 ans, et puis le jour où il en a envie, de reprendre son métier.
Oui, oui. Alors à ce moment-là où les enfants sont enfin, déjà 4 ans, 4, 5 ans, alors à ce moment-là, les faire entrer à l'école et...
Ah oui, je suis partisan de, oui. du jardin d'enfants et de la maternelle.
Oui, oui, c'est ça. Oui. Bon, on va passer à d'autres questions. Qu'est-ce que vous faites de votre temps libre ? Vous avez dit...
Eh bien, disons, occupation personnelle de la lecture autant que je peux. Mmh. Malheureusement, je ne peux pas assez. C'est triste, mais c'est comme ça. Et puis un mouvement de jeunesse qui me prend pratiquement tous mes temps libres et toutes mes vacances.
Mmh, oui.
Enfin, qui me prend, c'est pas le mot, puisque si j'y vais, c'est que j'en ai envie.
Oui, oui.
C'est passionnant.
Mmh. Et c'est à la maison de jeunesse ou...
Non, c'est les éclaireuses éclaireurs de France. C'est un mouvement au scoutisme laïque.
Oui. Mmh. Et alors, vos soirées, par exemple, sont consacrées à la lecture. Et le samedi et le dimanche, qu'est-ce que vous faites?
Eh bien, les soirées consacrées à la... Non, j'ai pas de moment privilégié. Par exemple, le jeudi soir, j'ai un club photo à animer.
Mm-hmm.
Quand je peux y aller, j'y vais. Puis ce soir-là, je ne lis pas, puisque ça me prend de 8h30 à 11h30 minuit.
Mm-hmm.
La lecture, c'est fini pour ce soir-là.
Oui,
d'autres soirs, je peux lire. Samedi, dimanche, il y a des week-ends où je peux me consacrer à la lecture, à des occupations personnelles.
Mm-hmm.
D'autres week-ends que je vais passer dans la nature avec des jeunes, à leur faire de la photo, de l'enregistrement... ou simplement aller camper pour le plaisir de camper.
Mmh, oui. Et comment est-ce que vous avez passé dimanche dernier? Vous pouvez me dire, dimanche dernier, ce que vous avez fait?
Dimanche dernier, je me suis offert un grand week-end de repos avec un ami qui milite dans le même mouvement de jeunesse.
Mmh.
On s'est offert un dimanche de réflexion et de repos.
Ah bon.
On ne s'est même pas fait la cuisine, on est allé au restaurant,
mmh.
on a passé notre temps à lire chacun notre coin, ou à discuter,
mmh.
ou simplement à se reposer.
Mmh,
donc ça nous arrive très rarement, c'est pas un dimanche typique.
Non. Enfin, c'est toujours dimanche dernier.
C'est dimanche dernier.
C'est compte. Et que ferez-vous pendant les vacances d'été?
C'est très loin.
C'est très loin.
Ce que je peux, disons, en me basant sur mes vacances précédentes, je partirai certainement avec un groupe de jeunes.
Mmh.
Combien de temps et où, je n'en sais rien.
Mm.
Pendant 2 ans, j'étais en Allemagne.
Mm.
Une autre année en montagne, enfin pour les 3 dernières années.
Oui, oui.
Et puis, j'aurai sans doute des examens à préparer.
Mm.
Parce qu'on a une session de septembre et que
oui.
faire des études en travaillant, c'est assez difficile.
Oui.
Donc ça me prendra quand même un mois.
Mm.
Et j'essaierai de prendre 15 jours pour aller me promener quelque part en Europe.
Ouais, très bien. Et si vous aviez 2 heures de temps libre supplémentaire par jour, que feriez-vous de ce temps libre?
En grande partie de la lecture.
De la lecture. Mmh.
Je suis curieux et je n'arrive pas à satisfaire ma curiosité.
Bon. Et à votre avis, qu'est-ce qu'on devrait apprendre surtout aux enfants à l'école?
Je vais répondre une bêtise. On devrait leur apprendre à apprendre. C'est-à-dire, je ne crois pas que matraquer... un élève en lui faisant apprendre des formules,
mmh.
ou des déclinaisons latines, ça a un sens énorme.
Mmh.
À leur apprendre à réfléchir, apprendre à la logique, ce qu'on fait un peu dans la mathématique moderne actuelle,
mmh.
c'est passionnant et ça sert beaucoup.
Ça sert beaucoup, oui.
Bien sûr, il y a la base, il faut savoir parler, il faut savoir écrire, il faut savoir compter. Maintenant, disons, si on prend les programmes actuels, connaître toutes les dates de l'histoire de France, et connaître tous les petits détours de certains morceaux de l'histoire de France, je trouve pas ça tellement passionnant.
Mmh. Alors c'est surtout apprendre les enfants à apprendre et à voir clair dans ce qu'ils
disent. À savoir, disons, lorsqu'ils ont un problème, acquérir la solution eux-mêmes,
oui.
par eux-mêmes.
Mmh.
Et sans appliquer des recettes, mais par réflexion.
Oui, d'accord. Mmh. Et qu'est-ce que vous pensez du latin à l'école?
J'en ai fait 6 ans, j'ai détesté ça 5 ans.
Mais il y avait quand même
c'est un problème personnel. La première année, j'ai eu un excellent professeur d'histoire-géographie qui nous faisait du latin, c'est-à-dire qui nous a fait un cours d'histoire latine merveilleux, extraordinaire. C'est une histoire très belle.
Mm-hmm.
Et puis, il ne nous a pas fait de latin du tout. C'est-à-dire qu'on savait, disons, les 2 premières déclinaisons.
Mm-hmm.
Et puis, arrivé en 5e, j'ai perdu pied. Et puis, j'étais bon en mathématiques, je me suis offert le luxe d'être nul en latin.
Ah bon, d'accord. Et dans quelle matière est-il bon qu'un enfant se forme?
J'estime que dans la civilisation actuelle, il y a 3 matières C'est la langue française, sous toutes ses expressions, français parlé et français écrit, les mathématiques, qui sont absolument, à mon avis, non séparables du français. C'est aussi un mode d'expression. La langue maternelle et les mathématiques, ça, pour moi, ça va de pair. Et tout de suite derrière, des langues vivantes.
Des langues vivantes. Et autant, que, autant de langues vivantes que possible
Oui et non. Il ne servirait à rien d'avoir des notions dans 5 ou 6 langues vivantes. Donc il vaut mieux en parler couramment en une et puis avoir de bonnes notions dans 2 autres, disons.
Oui, d'accord. Et qu'est-ce qui fait que les enfants réussissent ou ne réussissent pas à l'école?
Merci.
Je m'excuse, je crois que j'ai oublié mon papier.
C'est pas grave. Là, vous posez une question un peu difficile. Je vais essayer de vous répondre par des exemples. J'ai actuellement des élèves qui, une fois rentrés chez eux, ne lisent pas. N'ont aucun contact avec le monde extérieur à part la télévision, qui à ce moment-là est reçue bêtement.
Oui.
Et sont des garçons et des filles, il y a certains qui ont 15 ans et qui ont peut-être 300 mots de vocabulaire.
Oui.
Et cela vient des parents, en grande partie, qui sont de milieux très pauvres et milieux, disons, des cultivateurs et des petits ouvriers de l'Indre, du fond de l'Indre, Barbery. Il est bien évident que ces enfants-là n'iront pas très loin.
Ouais.
Avec 300 mots de vocabulaire, on ne peut pas passer son bac.
Mmh.
Il y a aussi la faute de l'éducation nationale, qui n'a pas pu amener à ces enfants le complément.
Mmh.
On dit démocratiser l'enseignement. Démocratiser l'enseignement, c'est-à-dire permettre à tout le monde de rentrer en faculté, c'est bien gentil. Seulement, disons, un enfant de médecin ou de cadre supérieur qui aura 15 ans, 3000, 4000 mots de vocabulaire, passera à la suite très facilement, même si les parents ne peuvent pas, disons, lui donner les moyens matériels, c'est-à-dire l'argent pour continuer ses études, si à ce moment-là, l'État lui donne. Mais par contre, un enfant d'ouvrier avec ses 300 mots de vocabulaire ne pourra pas, même si on lui paye ses études pendant 20 ans, il ne pourra pas. D'autre part, il y a sans doute la civilisation qui fait beaucoup. On est passé, disons, de la civilisation du livre à la civilisation de l'image, avec la télévision qui est pratiquement dans tous les foyers. Or, je crois qu'on n'a pas assez exploité ça. Je pense que la télévision peut être, disons, le plus merveilleux moyen éducatif du XXe siècle. Actuellement, ça ne l'est certainement pas. On reçoit les images et puis on pense à autre chose, ou on ne pense à rien, c'est merveilleux, ça évite de penser. Éducatif, je ne crois pas.
Alors à ce moment-là, c'est surtout les parents qui...
Et oui, mais les parents, c'est bien gentil aussi de dire les parents, c'est vrai, seulement, disons qu'un manœuvre, à peu près illettré, puisse instruire ses enfants, il ne faut pas y compter. Donc il faut à ce moment-là que ce soit la société qui fasse l'effort à sa place, puisque lui ne peut pas, parce que lui, on ne lui a pas donné le bagage nécessaire au départ. Là, il faut que la société, disons, le remplace à ce moment-là. Et c'est ce qui n'est pas fait. Ce qui fait qu'actuellement, il y a encore très peu de fils d'ouvriers ou de paysans qui rentrent en faculté. Et ceux qui rentrent, si on fouille un petit peu, sont peut-être des ouvriers, peut-être des paysans, mais qui ont une certaine culture.
Et jusqu'à quel âge est-ce qu'il faudrait que les enfants continuent leurs études?
Je crois qu'il faudrait qu'on arrive à 18 ans.
18 ans. Pourquoi? Pourquoi 18 ans?
Essayer de les pousser le plus loin possible. On aura de moins en moins besoin d'ouvriers, et on peut s'en passer d'ouvriers. La machine est là pour remplacer l'ouvrier. Par contre, les cerveaux, on aura de plus en plus besoin. Et je crois qu'on sera amené à changer plusieurs fois de métier dans notre vie. Si on a de bonnes bases de départ, se reconvertir, peut-être un incident de parcours un peu désagréable, enfin, on s'en sort. Si on a juste un CAP, un petit certificat d'aptitude, disons, au tournage sur métaux ou quelque chose comme ça, pour la guerre, c'est... changer.
Et s'adapter à quelque chose d'autre.
C'est ça.
Et c'est la même chose pour les garçons et les filles ou...
Je ne vois absolument aucune différence entre garçons et filles.
Dans l'éducation?
Non, absolument aucune.
Aucune. Bon. Et quelle différence y a-t-il entre les lycées, les CEG et les CES?
Alors là, ça dépend un petit peu de... disons, de la... leurs différences théoriques et leurs différences pratiques. Les petites classes, alors le CEG, enfin le CES, ex-CEG, ou le lycée jusqu'à la troisième, théoriquement, il y a les mêmes classes, les mêmes programmes, les mêmes professeurs. Et puis si on... Alors théoriquement, c'est la même chose, il n'y a pas de différence. Le lycée, ce serait simplement les classes supérieures, secondes, terminales, voire le cas échéant, les classes de préparation à la faculté ou aux grandes écoles. Et puis si on regarde dans la réalité, on s'aperçoit qu'il y a quand même une ségrégation. Au lycée vont encore les fils, entre guillemets, de riches, et au CEG, au CES, les autres. Les enseignants, ben, mon Dieu, c'est un peu les mêmes. Surtout, je ne crois pas tellement à la valeur du diplôme en tant qu'enseignant. Il y a de très bons professeurs qui n'ont pas leur licence et des agrégés qui sont ce que j'appelle des ânes savants. C'est-à-dire des hommes ou des femmes qui possèdent une matière, par exemple la physique, qui la possèdent admirablement, qui feraient peut-être de bons chercheurs, mais qui ne sont pas des pédagogues.
Et quelle différence y a-t-il entre les élèves? Enfin, c'est justement ces élèves qui vont, enfin, de riches, selon vous, qui vont au lycée, c'est toujours pareil?
C'est toujours pareil. J'en reviens à ma petite marotte, c'est ce vocabulaire. Il y a des élèves qui suivront mieux que d'autres, parce qu'ils ont plus de moyens à leur disposition, plus d'outils pour suivre. Même dans un CES, je vois dans l'établissement où j'enseigne, il y a par exemple deux classes de 3e. Il y a une qu'on appelle 3e M1 et l'autre 3e M2. M1 sont, paraît-il, les bons élèves. Et M2, enseignement court, on y a mis tous les garçons et toutes les filles qui n'arrivaient pas à suivre. Et résultat, c'est que quand je mets une note, disons 15, pour reprendre l'ancien système de notation, en 3e M2, ça correspondrait à 10 en 3e M1. Il y a une séparation, ce qui fait que les élèves de 3e M1 passeront assez facilement en cycle long, en seconde de lycée normal, pour, disons, à 80%, ils s'y adapteront, alors que ceux de 3e M2 ne s'y adapteront qu'à 30 ou 40%.
D'accord. Et est-ce que l'enseignement a beaucoup changé depuis que vous avez terminé vos études, enfin, depuis que vous étiez à l'école? Le temps où vous-même, vous étiez là.
Mes souvenirs sont assez peu précis là-dessus. Enfin, ça me semble être toujours la même pagaille. Il y a toujours d'excellents profs, de très mauvais profs, et puis des profs moyens dont on ne se souvient pas. Et puis, je ne sais pas si ça a beaucoup évolué. Si, par exemple, en mathématiques, on commence à rentrer de manière sérieuse les mathématiques modernes, c'est une très bonne chose. Malheureusement, il y a des enseignants qui ne sont pas formés. J'enseigne les mathématiques modernes, j'en ai pratiquement jamais fait. Bon, il se trouve que je suis encore étudiant, je suis libre, je suis célibataire, je peux me permettre de passer quelques heures à apprendre un peu les mathématiques modernes telles qu'on doit les enseigner au lycée, à essayer de voir comment faire passer le truc, quoi. Maintenant, il y a aussi certains cas, j'ai vu des collègues beaucoup plus honorables et beaucoup plus vieux, de très doctes agrégés qui ont fait leurs études de mathématiques il y a 40 ans, et pour qui ça semble un peu bizarre et qui n'arrivent pas à le faire passer, malgré toute leur immense culture mathématique classique.
Et comment est-ce que l'on fait le choix entre l'école publique et l'école libre?
On va dire, j'en sais rien. J'ai vu quelques cas, je ne sais pas si c'est... si c'est généralisable, il y a le cas, on tient à aller à envoyer les enfants à l'école libre parce qu'on y a été, et puis, ou parce qu'une voisine dit c'est merveilleux, c'est bien, c'est là qu'ils apprendront le moins de gros mots, etc. Ce qui d'ailleurs se révèle complètement faux. Mais ce qui se passe aussi dans certaines villes, c'est que il peut y avoir un lycée qui a une mauvaise réputation, une école libre qui a une bonne réputation. Auquel cas, si on est assez riche, on enverra peut-être les enfants à l'école libre. Et il y a aussi le cas contraire, un enfant qui est renvoyé du lycée sera admis dans certaines écoles libres, disons de bas étage, où on ne se préoccupe pas tellement de la valeur de l'enfant, et on le fera passer, il n'aura jamais son bac, mais enfin pendant 4 ou 5 ans, on l'amusera.
Et vous personnellement, l'école libre ou l'école...
Non, personnellement, je ne suis pas tellement pour l'école libre. Disons de manière systématique. Alors, je reconnais que, par exemple, il y a certains collèges, du style des collèges de jésuites, qui sont infiniment supérieurs à la plupart de nos lycées. Bon, c'est une question de moyens. Le jour où on mettra les mêmes moyens dans un lycée, on aura les mêmes résultats, il n'y a pas de problème. Je crois que l'enseignement doit être quelque chose de gratuit. C'est un service que la société doit aux plus jeunes, puisque c'est eux qui ensuite feront marcher cette société, cette économie. Donc on doit les amener le plus loin possible, ça doit être un service gratuit.
Et qu'est-ce qui vous ferait accepter d'envoyer des enfants à l'école libre ?
Par exemple, en admettant que je sois obligé de travailler dans un petit bourg, parce que dans une grande ville le problème ne se posera pas, dans un petit bourg où l'enseignement secondaire est vraiment mauvais.
Oui.
Ce qui paraît quand même relativement difficile à imaginer, surtout si on essaie d'imaginer que dans le même petit bourg ou pas trop loin, il y aura une école libre de très haute valeur. Oui. Ça pourrait être un moyen de réflexion. Maintenant, étant donné que je suis enseignant dans l'école publique, je ne pense pas que le problème se posera.
Et êtes-vous favorable à la participation des élèves au conseil d'administration des écoles ?
Toujours répondre oui et non. Oui, si c'est une vraie participation. Non, si c'est un numéro de cirque. Ce qui actuellement se passe assez souvent. Exemple, on fait un conseil de professeurs, on organise entre professeurs, on prend toutes les décisions. J'ai d'ailleurs fait entre deux cigarettes ou entre deux discussions sur le tricot de ces dames ou la voiture de ces messieurs. Et puis, quelque temps après, on va faire une réunion avec les parents et les élèves. Et puis, on va leur dire, voilà, c'est comme ça. Et on va appeler ça un conseil avec participation des élèves. Là, c'est faux. Moi, j'appelle ça un numéro de cirque pour amuser la galerie. Mais si c'est une vraie participation, c'est-à-dire que on va demander par exemple aux parents leur avis, on va en tenir compte, on va demander aux élèves ce qu'ils pensent de leur professeur. C'est dangereux et c'est très difficile à obtenir. Et puis on va essayer de tenir compte de tout ça. S'il y a une décision à prendre, il faudra qu'elle soit prise par tout le monde. Et bien évident que ce n'est pas à la portée de n'importe qui. Il y a beaucoup d'enseignants qui actuellement se refusent à ce jeu-là. Parce que précisément, ils ne se sentent pas à la hauteur. On prend une décision, un point c'est tout, et on ne veut pas en discuter. On a raison, la science infuse, on ne veut pas en discuter. Ça viendra certainement.
Et d'après vous, qu'est-ce qu'il faudrait changer dans l'enseignement actuel ?
Certainement la formation des enseignants.
Oui.
Pour vous donner une idée, sur Orléans, lors des fameux événements de mai, les élèves de licence d'enseignement dont j'étais avaient demandé à faire non plus une licence d'enseignement, mais une maîtrise d'enseignement. C'est-à-dire 2 ans après le premier cycle de faculté, maîtrise qui aurait compris un enseignement, disons, particulier, par exemple la physique-chimie ou le latin, et un enseignement global, alors, regroupant toutes les disciplines, de pédagogie et de psychologie de l'adolescent. Bien entendu, ce n'est pas ce qui se passe. On a effectivement notre maîtrise d'enseignement, seulement au lieu d'être 1 an de spécialité, c'est 2 ans de spécialité. Et on ne parle toujours pas de pédagogie, des réactions d'un adolescent ou d'un enfant, on ne sait pas ce que c'est. Et quand on se retrouve avec 80 élèves la première fois, on improvise. Et c'est assez gênant. Et c'est pas rentable.
80 élèves ?
Oui, c'est ce que j'ai cette année, en 3 classes.
Ah, oui.
Et encore, j'ai de la chance, j'ai des petites classes. J'ai des collègues qui ont des classes de 40. C'est de plus en plus rare, mais ça existe encore.
Oui.
Bon, mais 80 élèves à des âges différents, et encore, je n'ai pas tellement de classes, puisque j'ai des classes, enfin, entre autres la 3e, dont je fais presque un tiers de l'emploi du temps. Et ces 80 élèves qui ont tous des réactions très personnelles, mais qu'on peut quand même grouper, la réaction des garçons et des filles de 11-12 ans, 12-13 ans, bon, ça se ressemble un peu, mais la réaction des adolescents de 3e, c'est-à-dire des 15 ans, avec là une assez grosse différence entre les garçons et les filles, du fait d'une évolution qui se creuse déjà un peu entre les garçons et les filles, et du décalage qui se produit à ce moment-là. Disons que toutes les petites données que j'ai là-dessus, je les ai acquises au cours des années dans un mouvement de jeunesse à m'occuper d'enfants et d'adolescents, mais absolument pas en faculté. Et pourtant, j'étais élève professeur. C'est-à-dire, j'ai signé avec l'État un contrat comme quoi j'enseignerais X années, contre quoi il m'a payé mes études. Mais uniquement des études sur des formules.
Et pas d'études de pédagogie de
Absolument pédagogie. Pas. Alors théoriquement, il y en a. C'est après le CAPES, tiens, notre CAP d'enseignant, on doit faire... Alors, si on a la partie théorique du CAPES, on doit passer une année en CPR, Centre pédagogique régional, où on fait théoriquement des stages, des petites choses un peu de formation. C'est assez folklorique. Et comme pour la plupart, on enseigne avant d'avoir le CAPES, parce que pendant un an, deux ans ou trois ans, on va être maître auxiliaire. C'est-à-dire qu'on fera exactement le même travail sans la qualification, et bien entendu sans le salaire. Pendant un doute, en admettant que cette formation de CPR soit parfaitement valable, extraordinaire, etc., pendant trois ans, on aura fait des gaffes, obligatoirement. Après, on n'en fera peut-être plus. Quoi que ce ne soit pas mon avis, parce que j'ai l'impression que cette formation ne semble pas tellement, tellement valable.
Alors, c'est surtout la pédagogie.
Ouais, je crois qu'il faut qu'on repense complètement la formation des enseignants. C'est bien évident que ça risque d'en gêner certains.
Et pour revenir à la ville d'Orléans, est-ce que, d'après vous, on fait assez pour les habitants d'Orléans ?
Il y a une municipalité un peu bizarre ici, qui s'offre de temps en temps des dépenses de prestige, au détriment d'un certain nombre de services publics, puis qui à d'autres moments fait des efforts sur le plan des services publics. Ça m'a l'air un peu désordonné. C'est-à-dire que, personnellement, j'aurais pas retenu les mêmes priorités. Ils ont le même ordre de priorité. Ils ont un palais des sports, un palais des expositions, c'est très bien, c'est nécessaire. Maintenant, un hôpital moderne, c'était peut-être nécessaire avant. On a organisé les Floralies internationales, et il y a eu un gentil petit déficit qui... en gros fait un demi-milliard d'anciens francs, quand même assez colossal. Bon, c'est évident que sur le plan prestige, ça a amené beaucoup à la ville, que ça a peut-être amené des rentrées, mais pas à ce point-là. Il y a un hôpital où on a encore des choses assez bizarres. Il n'y a encore pas tellement longtemps, on promenait les malades sous la pluie sur des trucs pavés. Une cour pavée avec des gros pavés bien irréguliers. Promener un malade en mauvais état là-dessus, c'était pas tellement conseillé. Il y a encore les vieux sont pas dans des conditions très reluisantes. Et le personnel médical a des conditions de travail très dures. Il y a d'autres problèmes. Il y a les problèmes des locaux scolaires, des cantines scolaires, etc. Problème des routes. Maintenant, ça commence à venir. Enfin, j'aurais peut-être inversé les priorités.
Surtout les villes de prestige d'abord ici.
Mais il ne faut pas se le cacher, on a une municipalité qui est au pouvoir et qui le tient bien. Entre autres, un maire qui possède le seul journal local, ce qui lui fait qu'il est à peu près sûr d'être réélu d'une fois sur l'autre. Il peut se permettre de changer l'ordre des priorités. Et puis, il y a, comme dans beaucoup de villes françaises et surtout dans le centre de la France, une équipe dirigeante. Pas obligatoirement le conseil municipal, mais enfin les gros commerçants, des choses comme ça, qui ont un énorme pouvoir et qui font faire quelquefois des choses qui, eux, les arrangent, mais qui n'arrangent pas obligatoirement la collectivité. Du style, la gare d'Orléans qui a été construite alors que c'est un non-sens de la reconstruire.
La gare d'Orléans ?
Oui, on avait autrefois une vieille gare à Orléans, horrible, franchement horrible, et puis la gare moderne des Aubrais. Et puis un beau jour, le conseil municipal a dit qu'il faut détruire cette gare. Effectivement, il fallait la détruire. Et puis la question s'est posée, est-ce qu'on va reconstruire une gare à cet endroit-là, alors que c'est un cul-de-sac? Pour aller aux Aubrais, on prend une espèce de petite navette, un vieux tortillard horrible. C'est-à-dire, ça fait perdre du temps. Ou est-ce qu'on va remettre ces crédits pour un aménagement des Aubrais en gare plus grande, puisque c'est la véritable gare d'Orléans, et puis... faire un service de car rapide, des choses comme ça. Et c'est en gros des commerçants d'Orléans, surtout de la rue de la République et de la place du Martroi, et de la place de la Gare bien sûr, qui ont acquis la décision. Parce qu'ils auraient vu d'un très mauvais œil tous ces clients se sauver. Parce que aller des Aubrais au Martroi ou à un autre endroit de la ville, ça ne faisait aucune différence. Alors qu'aller de la Gare d'Orléans à la place de la Gare, ou à l'autre bout de la ville, ça fait une certaine différence.
Oui, d'accord. Et nous avons dit « on ». Mais « on », c'est qui pour vous ? Enfin, je posais la question, est-ce que, d'après vous, « on » fait assez pour les habitants d'Orléans ?
Oui, bien, « on » fait assez... Alors moi, j'ai compris la question comme l'équipe dirigeante, c'est-à-dire le conseil municipal, bon, fait les autorités municipales, départementales, régionales et nationales. Maintenant, il est bien évident que ces autorités-là ont été élues par les Orléanais.
Mmh. Oui.
Ça revient à poser le problème de l'élection. Enfin, ça, c'est autre chose.
Oui, mais c'est surtout les conseillers municipaux.
Oui, pour moi, c'est l'équipe dirigeante de la cité, c'est-à-dire le maire et son équipe.
Oui, oui. Et est-ce qu'il y a d'autres personnes qui comptent, qui ont de l'influence, à part cette on?
Oui, alors sur le plan local, bon, bien sûr, Orléans est une préfecture régionale. Donc, il va y avoir tous les services départementaux et régionaux, avec quand même un certain nombre de hauts fonctionnaires qui ont une certaine influence, même simplement par persuasion.
Oui.
Il y a les services préfectoraux avec un préfet régional, il y a tous les services régionaux, par exemple du travail, etc. Et il y a le service régional d'enseignement. Le recteur est ici avec ses services académiques.
Mmh.
Et ceux-là ont quand même une certaine influence. La preuve, c'est qu'on a une université.
Oui. Et on a beaucoup parlé des événements de mai en 1968. Enfin, je n'étais pas en France à l'époque. Est-ce que vous pourriez m'expliquer comment ça s'est passé?
Comment ça s'est passé? Alors, sur le plan national, ça a été une assez gigantesque pagaille déclenchée, dit-on, par des étudiants. Possible. Enfin, ils ont peut-être été les premiers à démarrer. Il y en a peut-être d'autres qui attendaient que ça. Enfin, là, il faut revoir l'historique des événements de mai, c'est assez long. Ce qui s'est passé sur le plan orléanais, bon, mais pratiquement rien. Il y a eu évidemment la grève générale, comme dans toute la France. Sans grosse manifestation, c'était une grève du style Centre-France, c'est-à-dire ne nous affolons pas, faut pas trop se... Bon, et bien sûr, il y a eu des défilés, CGT, CFDT, FO, etc. Et puis les étudiants, il y avait à peu près une quarantaine d'excités.
C'est à peu près... Il y a combien d'étudiants?
À l'époque, il devait y en avoir 4000 à peu près. Enfin, ça, en gros, ça faisait le même pourcentage d'excités qu'à Paris.
Oui.
Seulement, à Paris, c'est sur 100 000 ou sur 150 000 étudiants. Donc, ça faisait quand même une assez grosse masse. Et quand ils se réunissaient d'un seul bloc, ça faisait du dégât. Mmh. Orléans, 40 excités, il était assez facile de les museler. C'est ce qu'on a fait, d'ailleurs.
Ouais.
Bien sûr, ils ont essayé de faire des actions d'éclat. Ils ont même voulu essayer, un soir de 7 mai, d'aller se battre avec les CRS. Ce qui était un peu démentiel, parce que le 7 mai, à Orléans, il y a beaucoup de CRS, parce que c'est la fête de la ville, fête de Jeanne d'Arc, le grand folklore local et annuel. Seulement, il y avait aussi quelque chose de... Alors ça aurait pas été grave, ils se seraient fait tabasser parce qu'il y avait 10 fois plus de CRS que d'étudiants. Il y avait un problème beaucoup plus grave, c'est qu'il y avait sur la place de la cathédrale, à cette heure-là, ce jour-là, il y a environ 200 gosses de moins de 4 ans. Puisqu'il y a l'embrasement des tours, on emmène tous les gosses, c'est typique. Et puis, s'il y avait eu des mouvements de foule, ces gosses en auraient certainement souffert.
Oui.
Disons que la plupart des étudiants modérés qui étaient au courant de ça, on n'était pas tellement nombreux à l'époque, qui ont su justement qu'il allait se passer cette chose-là, ont été voir les petits excités, puis on leur a dit, d'accord, allez-y, on va vous aider, on se mettra derrière vous, puis quand les flics commenceront à taper, nous on tapera aussi, mais sur vous, on vous poussera dans leurs bras. Comme on pouvait réunir nettement plus de gens, ça les a un peu calmés, puis ça ne s'est pas passé. Oh, il y a eu des petites exactions, surtout du côté extrême droite. Il y a eu quelques gauchistes qui ont fait leur petit folklore. Mmh. Extrême droite, il y a eu des petits raids sur la bibliothèque. On jouait au commando de parachutistes. On se ramenait avec une mitraillette, un fusil, enfin, ou des choses comme ça. Ça a fait souffrir pas mal d'étudiants étrangers. Tous les étudiants de couleur ont été matraqués plus ou moins. Les syndicalistes UNEF aussi. Mmh. Enfin, ça n'a pas dépassé l'anecdote parce que c'était une quarantaine d'abrutis, qu'ils étaient étudiants ou non, d'ailleurs ils n'étaient pas tous étudiants, bon, mais des idiots il y en a partout. C'était pas le fait des étudiants d'Orléans ou d'Orléans-Tours.
Mmh. Et à votre avis, comment est-ce qu'on peut expliquer ces événements? Est-ce qu'il y a une explication pour...
J'ai pas mal pensé à la question, ça paraît difficile. Enfin, je sais pas, j'ai peut-être pas assez d'éléments pour les expliquer. Il y avait un certain malaise dans le pays, c'est vrai. Maintenant, ça couvait depuis un certain temps. D'une manière ou d'une autre, ça a éclaté de manière très brutale. Ça l'a fait ailleurs, dans d'autres proportions.
L'Italie se fait sa petite crise estudiantine et ouvrière, ça continue encore actuellement. L'Allemagne se fait sa crise estudiantine, assez brutale elle aussi. Ça n'a pas pris les mêmes proportions parce que la crise, disons, estudiantine et la crise travailleur, c'est pas fait en même temps, du moins pas avec le même synchronisme. En France, ça s'est fait tout d'un seul coup et puis ça. Après, par auto-entraînement, les gens avaient commencé la grève, ils l'ont durci de plus en plus, etc. C'était surtout des mouvements de foule. Hein. La preuve, c'est qu'un jour, il y a eu je ne sais combien de centaines de milliers de personnes qui ont crié mort au régime ou à peu près, et deux jours après, ils criaient vive de Gaulle. Un mouvement de foule soigneusement orchestré par un petit groupe d'un côté, un petit groupe de l'autre, et puis les gens ont suivi, comme ça se passe toujours. Oui. Maintenant, ça a été quand même assez désagréable pour le pays, parce que sur le plan économique, on n'a pas fini de.
Non, de payer.
Les pots cassés.
Voilà. Enfin, comme les veaux, les Français sont des veaux, c'est ça, quoi. De Gaulle a dit, non ?
Oui, bon, enfin, ça, je crois que c'est pareil dans tous les pays. Hein. Quand on a une foule, il n'y a rien de plus bête qu'une foule, même si elle est composée de gens intelligents.
Oui. Et. Vous n'êtes pas pressé là ?
Non, c'est l'après-midi.
Alors, lorsque vous votez pour un député, qu'est-ce que vous attendez de lui ?
Eh bien, qui essaye de faire son métier honnêtement, et puis avec des idées qui correspondent un peu aux miennes. Malheureusement, je n'ai pas une grosse expérience, j'ai 23 ans, je vote donc depuis 2 ans. Malheureusement, j'ai des idées qui ne correspondent pas à celles de la majorité. Et comme dans ma circonscription, enfin, comme dans toute Orléans, les députés qui sont passés, entre autres la dernière fois, et les fois d'avant sont des députés style majoritaire, soit UDR, soit apparenté, il était difficile de voter pour eux ou de voter pour un autre candidat en espérant qu'il passe. Il faut quand même être réaliste. Oui, disons qu'au premier tour, je vote pour le candidat de mon cœur, hein, celui qui me plaît le plus ou qui me déplaît le moins. Oui. Ça dépend comment on voit la chose.
Merci. C'est sûr ça. Enfin,
oui.
Si on élimine ou si.
Et puis, bon, alors, au premier tour, on a le choix. Alors, ça permet de dire à quelqu'un, mais je vous aime bien, je vote pour vous, mais je sais que vous ne serez pas élu, bon, et puis tant pis. Et puis au deuxième tour, bon, là, c'est surtout un vote négatif. On sait qu'il y en a un qui va passer. Bon, si on n'est pas d'accord avec lui, et qu'on est moins d'accord avec lui qu'avec celui qui s'oppose, on vote pour l'autre, c'est une manière de lui dire je vote pas pour toi, j'approuve pas ce que tu vas faire. Ça ne veut pas dire qu'on vote obligatoirement pour l'autre et qu'au deuxième tour, on va dire à l'autre je t'aime bien. C'est pas le cas. Quand par exemple, on a, disons, une bataille, un gaulliste, un communiste, on va choisir.
Oui.
On va voter pour l'un, ça ne veut pas dire qu'au premier tour, on aurait voté pour lui. Simplement, on estime que c'est un moindre mal par rapport à l'autre.
Oui, d'accord. Oui. On vote toujours pour le moindre mal. Enfin, d'abord pour
le candidat de son choix,
oui,
et puis après pour dire non à quelqu'un, parce qu'au deuxième tour, sauf dans un certain nombre de circonscriptions, enfin aux dernières élections, on savait à l'avance pratiquement qui allait passer. Il n'y a pas eu beaucoup de circonscriptions où il y avait un scrutin très serré. Enfin, du moins ici, on savait qui allait passer. Il n'y avait pas de problème.
Oui.
Bon, là, c'était simplement lui dire oui ou lui dire non.
Oui.
L'autre était là comme comparse.
C'est tout. Et dans les élections nationales, pourquoi est-ce qu'il y a 2 tours ? Parce que, enfin, en Angleterre, il n'y a pas de tours. Pourquoi est-ce qu'il y a ces 2 tours, justement ?
Bon, c'est peut-être pour essayer. Enfin, les deux systèmes se défendent. Il y a des partisans du système à 1 tour, d'autres du système à 2 tours. Il est évident qu'avec le système à 2 tours, l'individu qui sera élu au deuxième tour pourra dire j'ai ramassé 55 ou 60% des suffrages. Donc 60% des Français qui votent pour moi. C'est quand même un calcul un peu hâtif, parce qu'au premier tour, il n'y en aura peut-être que 35% qui auront voté pour lui.
Oui.
Moi, je crois que ça revient un peu au même. Ça pondère peut-être un peu l'élection dans le cas d'une élection de député où on va en élire plusieurs centaines, parce que sur toute la France, ça représentera peut-être un petit peu mieux la structure politique de la France, quoi que ce soit pas tellement sûr. Sur les présidentielles, je ne sais pas. Je crois que peut-être le système des élections primaires américaines, puis après des véritables élections, serait peut-être pas mauvais. Maintenant, il y a des partisans des deux. Oui. J'ai peut-être pas assez d'informations pour juger, pour émettre une opinion.
Oui. Et comment est-ce qu'on décide sans vote la seconde fois?
Je vous
l'avais déjà expliqué.
Sauf dans le cas où il y aura possibilité de ballottage serré, où on ne sait pas lequel va passer. Là, on va choisir pour un candidat, pas pour dire non à l'autre, bien évidemment.
Oui.
Maintenant, quand on sait qui va passer.
Oui, bien sûr, à ce moment-là. Et quelle est la différence, pensez-vous, entre la gauche et la droite?
Il n'y en a pas. Je ne crois pas qu'il y en ait tellement actuellement. Personnellement, j'ai décidé de gauche. Maintenant, quand je vois un certain nombre de leaders de gauche français, bon, j'ai envie de changer de trottoir.
Ah bon. Les leaders de gauche, c'est qui? C'est...
Alors, si on prend les leaders traditionnels, Mollet, puis le Parti communiste avec Valdécrochet et quelques autres, ceux-là me semblent un petit peu perdus dans l'histoire. Il ferait bien de rejoindre notre très vénérable général et d'écrire leur mémoire, ça serait une excellente occupation. Bon, il commence à y avoir un certain nombre de leaders de gauche moderne. Ce que j'entends par gauche moderne, c'est quelque chose qui ne soit pas utopique. Hein. C'est du style de la gauche suédoise ou de la gauche allemande ou britannique qui ont pris le pouvoir et qui l'ont sans avoir des idées complètement farfelues. Alors, quand on écoute un discours, disons, d'un leader de la gauche française du style Guy Mollet ou Valdécrochet, puis qu'on essaye de voir si leurs idées sont applicables, autant se taper la tête contre les murs. C'est généralement complètement idiot. Maintenant, il faudra bien qu'on en arrive à avoir une gauche réelle. Surtout que depuis quelques années, la gauche en France a pris un certain nombre de gifles sur le plan politique et qu'elle est réduite à peu près à néant sur le plan parlementaire. Il y a un certain nombre de gens qui vont se mettre à faire ce travail. Je pense peut-être à Michel Rocard du PSU. Bien qu'il ait eu une période que je n'approuve pas tellement d'extrémisme et de gauchisme. Enfin, avec l'habit de parlementaire, il va peut-être un petit peu se civiliser. Peut-être aussi Servan Schreiber, directeur de l'Express, qui vient d'être élu parti radical, que je considère, eux, comme des hommes modernes. Et peut-être capable de faire quelque chose d'intelligent.
Et Roca, c'est celui qui était élu aux Yvelines.
C'est cela, oui, il vient d'être réélu. Enfin, c'est le leader PSU.
Oui. Et c'est la nouvelle gauche française.
Gauche, c'est quand même beaucoup dire parce qu'il ne représente pas grand-chose. Ni Michel Rocard, ni Jean-Jacques Servan-Schreiber ne représentent beaucoup en nombre d'électeurs. Puis de toute manière, ils ne se sont pas encore frottés tellement aux élections. Michel Rocard, si, au présidentiel. Servan-Schreiber, non. Il représente des idées, enfin surtout Servan-Schreiber représente des idées qu'on peut voir dans l'Express, que j'aime assez.
Des idées quand même applicables.
Des idées applicables, c'est pas de l'utopie.
Oui, à ce moment-là, oui. Est-ce qu'il y a des différences entre les classes sociales? Est-ce que les différences entre les classes sociales sont très marquées, Hervé?
Oui.
Oui.
Il me semble.
Et à quoi comment bourgeoisie, haute bourgeoisie, tout ça?
On peut le marquer de deux structures. Disons une structure verticale qui va partir du manœuvre et qui va arriver au PDG. Et puis une structure horizontale, l'orlanet de souche et l'autre. Entre guillemets et péjoratif. C'était la même chose à Bourges où j'ai vécu un peu. Alors la structure, on ne va pas se mélanger entre classes sociales sur le plan vertical. Bien sûr, ça commence à se faire, heureusement. Enfin, il y a quand même, disons, les castes. Et ça existe encore. Et puis la structure horizontale, quand quelqu'un arrive dans la ville, par principe, on ne va pas l'accueillir. Y a un exemple typique, aller dans un magasin orléanais, ça commence à venir maintenant. Seulement, la première chose qu'on remarquera, c'est que les gens ne sont pas très agréables. Et on dirait que manifestement, ils n'ont pas envie de vendre. Si, aux vieux clients, oui. Une fois qu'on s'est fait admettre dans la maison, ça va. On arrive à discuter, à voir ce qu'on veut. Et vous rentrez dans un magasin pour la première fois, vous n'êtes pas connu, vous demandez quelque chose d'un petit peu bizarre, mais qui existe. Vous êtes sûr que ça existe, vous l'avez déjà acheté ailleurs. Si ça n'est pas en magasin, la réponse classique est « ça n'existe pas ».
Oui, d'accord.
Et si par hasard vous faites preuve de mauvaise humeur et que vous amenez l'objet en question au magasin quelques heures ou quelques jours après, en disant voilà, ça existe, alors là, on vous traite de petits voyous, de choses comme ça, ça ne se fait pas. C'est pas dans les mœurs.
C'est pas dans les mœurs, rien. Et à quoi est-ce qu'on reconnaît alors les castes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Un membre de ce.
Il y a un certain nombre de symboles qui jouent un peu. Il y en a un qui commence à s'effacer, c'était les lieux de réunion. Grâce à Dieu, ça commence à s'effacer, peut-être un peu grâce à, au fait que les gens sortent, que Paris n'est pas très loin, puis que la télévision existe. Enfin, il y a encore, ça se voit sur le plan de la jeunesse, c'est encore très net sur ce plan-là, il y a le lieu de réunion du fils de bourgeois, le lieu de réunion du fils d'ouvrier. Disons que dans une maison de jeunes où il y a beaucoup de fils d'ouvriers, il y aura peu de fils de bourgeois. Ou alors, si, mais des garçons et des filles ouverts qui, eux, iront parce qu'ils trouvent ça bien. Et puis qu'ils ont envie de se frotter un petit peu à des gens qui sont un peu différents comme formation.
Oui.
Mais il y a encore le club des fils de bourgeois. On va organiser ces petites choses entre soi, on n'admettra personne d'autre. Et ça existe, ça se voit très bien dans une classe de lycée.
Oui.
À Orléans, où il y a la séparation nette et brutale. Entre le petit groupe de, disons qu'ils sont là depuis 10 générations, on les verra bien ensemble dans en cours, en récréation, etc. Ils vont faire leurs petites affaires entre eux. Bon, il y aura l'immense groupe des autres dans lequel les nouveaux venus, les arrivants dans la ville s'intégreront d'abord, même s'ils sont a priori d'une autre s'ils feraient partie de la classe des fils de bourgeois. Ils ne sont pas intégrés dans celle-là, ils sont intégrés dans l'autre avant.
Compliqué.
Là, il y a deux structures en damier, quoi, horizontale, verticale.
Oui,
je pense que ça va disparaître, mais enfin, c'est long.
Oui. Est-ce qu'on peut passer d'une classe à l'autre, enfin, est-ce qu'on arrive comment, quand même
à monter, peut-être. À descendre, c'est très difficile.
Oui.
Parce que une fois qu'on a une étiquette, on la garde. Et il est difficile de s'en débarrasser.
Et comment est-ce qu'on peut passer, comment est-ce qu'on peut monter ?
Moi, je vois pas tellement ça sur le plan des adultes, parce que je ne suis pas tellement frotté. Sur le plan des jeunes, disons qu'il y en a un qui sera un peu plus farfelu que les autres, qui va être admis dans la caste des joyeux farfelus bourgeois, qui vont se singulariser par tout un tas de choses un peu bizarres, un peu exubérantes. Par des tenues, la tenue vestimentaire joue beaucoup. C'est encore un symbole. Ça peut permettre de passer d'une classe à l'autre. Les moyens de locomotion, les gadgets techniques personnels, des choses comme ça. Par contre, à ce niveau-là, on peut aussi être rejeté. Alors là, on est hors caste. Ça existe.
Et vous croyez que les différences entre les classes ont tendance quand même à diminuer ?
Ah oui, certainement.
Oui.
Bien sûr, je suis assez jeune pour parler de ma vieille expérience, c'est pas possible, mais enfin, le peu que j'ai vu, je crois que ça va tendre à disparaître, et c'est très bien comme ça.
Oui.
Il était temps que ça disparaisse. Il y a quand même une égalisation qui se fait, ne serait-ce que l'égalisation sur les salaires, disons que l'échelle de salaire commence à se rétrécir.
Oui. Et pourquoi est-ce que les différences ont tendance à diminuer alors ?
Justement, à cause de notre civilisation qui les rétrécit. Disons que si, par exemple, on arrive à un modèle de civilisation qui ressemble un peu au modèle suédois actuel, les différences tendront à disparaître d'elles-mêmes. Le jour où, entre l'ouvrier et le président directeur, et le cadre supérieur, il y aura peut-être une échelle 3 dans l'échelle de salaire, alors qu'actuellement, c'est pas 3, c'est 10, 15 ou 20. Les modes de vie à ce moment-là se ressembleront. D'autre part, si les gosses des uns et des autres arrivent à faire les mêmes études, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, il y a encore tout un tas de moyens à définir.
Oui, oui.
Mais enfin, si ça arrive, les différences de niveau culturel vont s'effacer.
Oui.
Enfin, vous estompez un peu. Et à ce moment-là, automatiquement, les castes vont avoir tendance à disparaître. Ça se fait déjà un peu, mais pas assez vite à mon gré.
Bon. Alors, je vais arrêter un moment. Et alors une question d'un genre un peu différent, comment est-ce qu'on fait une omelette ? Pourriez-vous m'expliquer comment est-ce qu'on fait une omelette ?
Oh, je pense pas que ce soit très difficile. On prend des œufs, on les casse. Je les casse un à un. Il n'y a pas tous dans le même saladier, mais dans un récipient séparé pour voir s'il n'y en a pas un de mauvais, ce qui peut arriver. Ensuite, je les bats avec une fourchette. Et puis, je vais rajouter un certain nombre de choses suivant l'inspiration du moment. Chose classique, un peu d'eau peut-être pour l'aérer un peu, du beurre fondu. Et puis après, suivant l'inspiration, tout ce qu'on veut, par exemple des fines herbes ou d'autres choses. On prend une poêle, on fait chauffer matière grasse, c'est-à-dire du beurre. Quand elle va être fondue et assez chaude, on y verse le mélange d'œufs battus. Et on va commencer à faire cuire en remuant l'omelette de temps en temps pour la ramener, disons pour ramener la pellicule cuite à la surface et pour faire passer le liquide au fond. Et puis on servira mochelem assez baveuse.
Bon, d'accord. Très bien. Bon. Très bien.
Je tiens à vous préciser qu'en tant qu'animateur dans un mouvement de jeunesse, je fais souvent la cuisine pour 40 personnes.
Oui.
J'ai été obligé de l'apprendre. Et je la fais pour moi tous les jours, alors.
Ouais.
Comme j'aime bien manger.
Et est-ce que vous faites des mots croisés?
Rarement.
Rarement.
Rarement, j'ai
pourquoi
peut-être pas la patience de les faire. Bon, quand je m'y mets, bon, je vais travailler avec le dictionnaire, je vais chercher. Mais ça m'arrive très rarement.
Et pourquoi? Enfin, ça ne vous plaît pas comme...
Bon, j'ai pas un penchant extraordinaire pour les mots croisés.
Non, non. Et pensez-vous qu'il soit utile que les enfants apprennent le latin à l'école?
Peut-être. Vous savez ce que je pense du latin. Maintenant, oui, peut-être. L'apprendre tel que je l'ai appris, c'est-à-dire de manière obligatoire, systématique, et avec un enseignement aussi long, non. J'estime qu'il vaut mieux apprendre une langue vivante. Maintenant, avoir une bonne notion en latin, c'est certainement utile pour mieux comprendre la langue française.
Mm-hmm. Pour mieux comprendre la langue française.
Et accessoirement, les autres langues. Enfin.
Oui. Oui. Et que pensez-vous du franglais?
Enfin, on est obligé de s'y mettre sur deux plans, sur le plan civilisation, ou pas un mal. Ça fait peut-être hurler les linguistes. Bon, enfin. Ça prouve que les Français et les Anglais ont tendance à vivre un petit peu en commun. Ouais. Enfin, disons, les Français et les Anglo-Saxons. Il y a eu le problème des bases américaines en France qui a certainement fait beaucoup. Puis sur le plan scientifique, bon, on y vient tout naturellement. En tant que physicien, on utilise couramment des mots anglais dans une phrase française. Et puis ils vont avoir tendance à se franciser, avec quelques excès. Par exemple, il y a certains Anglais qui s'appelaient Isaac Newton. Bon, on admire un système international où le Newton est une unité de mesure, mesure de force. Et il y a un certain nombre de professeurs français qui ne veulent pas le prononcer Newton, mais Newton. Je trouve ça un peu absurde. Pourquoi ne pas le prononcer à l'anglaise puisqu'il s'appelait comme ça?
Oui.
D'autant plus qu'il ne s'écrit pas N-E-U, mais N-E-W. Bon, ça, c'est l'évolution de la langue. Hein. Je ne suis pas contre.
Vous n'êtes pas contre, vous êtes pour. Alors.
C'est-à-dire que je serais peut-être un peu surpris de lire un poème en franglais.
Oui. Ah,
mais après tout, pourquoi pas? Ça serait peut-être une expérience. J'aime entendre parler un français pur, ou le lire dans un livre, ou l'entendre au théâtre ou lors d'une causerie. Maintenant, dans la vie courante, qu'on utilise des termes franglais, pourquoi pas? Pourquoi compliquer encore l'apprentissage des langues en inventant d'autres mots, alors qu'on doit obligatoirement en inventer avec la... Oui. Disons l'évolution de la civilisation.
Oui. Et y a-t-il des différences selon vous dans la façon de parler français entre les gens appartenant à des milieux sociaux différents?
Oui, peut-être.
Et alors ces différences sont-elles très grandes, grandes, peu des différences?
Il y a deux différences. Il y a la différence de vocabulaire. Il est bien évident que, disons, un cadre aura un vocabulaire supérieur à celui d'un ouvrier. Enfin, en moyenne, hein, parce qu'il y a les exceptions dans les deux cas, enfin dans les deux classes. Mais il y en a un qui aura plus de facilité pour exprimer une pensée, c'est vrai. Maintenant, dans le langage courant, mon Dieu, chacun utilise les mots qu'il a appris et puis on arrive à utiliser les mêmes mots.
Oui. Et selon vous, les gens parlent-ils de mieux en mieux, de plus en plus mal, sans changement?
Certainement avec changement. Mieux ou plus mal, difficile à définir.
Oui,
parle différemment, c'est vrai, on ne s'exprime pas comme on s'exprimait au XVIIIe siècle en France.
Non.
Bon, de là à dire que c'est un bien ou un mal,
Dans le sens où on arrive à avoir de plus en plus de vocabulaire parce que de plus en plus de culture, c'est certainement un bien.
Mm-hmm. Oui, mais alors, quand même de mieux en mieux, alors.
En un certain sens. Mm-hmm. Enfin, surtout, pour moi, la chose principale, c'est différemment.
Oui.
Parce que la langue a évolué avec la société.
Oui, bien sûr. Oui. Et, enfin, de quoi est-ce que cela vient alors que, enfin, qu'il parle comme il parle?
Justement parce qu'il y a une évolution. Il y a quelque chose d'assez amusant, c'est d'entendre parler des Canadiens français, oui. Qui eux parlent encore, ils parlent très bien l'anglais. Mais ils n'ont pas voulu mélanger l'anglais et le français. Et ils parlent encore un vocabulaire qu'on trouve archaïque. Et pourtant, qui était le vocabulaire français courant du 17 et 18e siècle. Bon, le fait est qu'on s'est frotté à d'autres, disons, d'autres langages, l'anglais, l'allemand. Et puis, il y a un certain nombre de mots qui sont passés dans le vocabulaire. Il y a des mots nouveaux qui sont apparus. Mm-hmm. Et bien évident que... la voiture, ça n'existait pas, dans le sens où on l'entend au XVIIIe siècle, chemin de fer non plus, etc. C'est des mots créés par la civilisation. Si on reprend, admettons, le latin, disons, de l'Antiquité, et puis le latin de cuisine, disons, du début de notre ère, il y avait déjà une évolution. Pourquoi ? Parce que le peuple romain s'était frotté à d'autres civilisations, avait acquis un certain nombre de termes qui venaient de Grèce, d'Espagne, d'Italie ou de France. Bon, c'est une évolution normale.
Oui. Et parmi vos connaissances, quelle est la personne qui parle le mieux le français?
Parmi mes connaissances proches ou parmi tous les gens que je connais?
Parmi tous les gens que je connais.
Parmi tous les gens que je connais, il y a quelqu'un que j'admire pour ça, c'est le recteur de l'académie.
Le recteur
de l'académie. Monsieur Antoine, qui est agrégé de grammaire, un expert en philologie, et qui parle le français d'une manière admirable. C'est un vrai plaisir de l'entendre parler.
Bon, alors j'essaierai de l'écouter alors un jour.
C'est assez merveilleux. Bien qu'il possède très bien l'argot. Quand par hasard il donne un récital d'argot, c'est aussi un plaisir. Enfin, sur le plan de la langue française, il est merveilleux.
Oui.
Chaque mot vient à sa place, c'est formidable.
Et c'est monsieur Antoine, ça. Oui. Et y a-t-il en France un organisme qui décide si un mot ou une expression fait partie ou non du bon français?
Oui, il y a notre sacro-sainte Académie française.
L'Académie française. Et est-ce que vous trouvez l'Académie française très utile, utile ou sans utile?
Oh, utile certainement, oui. Maintenant, disons qu'il y a des mots qui passent dans le vocabulaire courant à un moment T et qui vont passer dans le dictionnaire de l'Académie, il y a T plus pas mal d'années.
Oui.
Il y a obligatoirement un décalage. Maintenant, quand on sait que les gens qui sont à l'Académie avaient tendance à être de vieux messieurs très dignes, et un petit peu retiré de la société, ça commence à évoluer, on commence à y faire entrer des metteurs en scène, et, enfin des gens qui ne sont pas des linguistes comme autrefois, enfin disons alors, comme ils étaient autrefois en majorité, ça commence à évoluer. Ça a certainement une utilité profonde. Mm-hmm. Il y a obligatoirement un décalage.
Oui. Et est-ce qu'il faudrait obliger les journalistes et les speakers de la télévision, de la radio à employer un bon français?
Oui, certainement, mais disons en parler correctement, ce qui n'est pas toujours le cas. L'exemple, c'est d'écouter, disons, Paris Inter et France Culture. Un poste d'usage courant, une station d'écoute, de grande écoute, et l'autre une station de prestige. Les uns parlent un petit peu comme Monsieur Tout-le-Monde, avec quelquefois des barbarismes ou des choses un peu ahurissantes. Alors que sur l'autre station, on entendra parler un français très pur et très recherché. Maintenant, il faut pas tomber dans le travers d'un français trop recherché qui ne sera pas compris. Il faut quand même un langage
oui,
courant.
Sûr. Oui. C'est la question sur les journalistes. Alors, parler correctement, mais ne pas employer un français trop recherché.
Trop étudié, oui.
Et alors, est-ce que c'est, selon vous, très important, important, peu important?
Et qu'ils emploient un vocabulaire qui soit correct, c'est très important. Pas de barbarisme et de non-sens, comme ça arrive quelquefois. Mmh. Bon, ça peut échapper à un journaliste comme à un autre. Hein. Enfin, que ce soit pas une monnaie courante.
Maintenant, qui ne parle pas un langage trop recherché, donc incompréhensible à une grande partie de la population, ça c'est aussi très important.
Oui, bien sûr.
Valable pour la radio comme pour la télévision.
Et pourquoi est-ce que, selon vous, enfin, il faut qu'ils emploient ce français?
Ouais, parce que je crois que, bon, la radio, non, c'est maintenant devenu un phénomène un peu secondaire, mais surtout la télévision, c'est un excellent moyen de, disons, d'enseignement, au sens large. Oui. Un enfant apprend à parler en écoutant parler ses parents.
Oui.
Et maintenant, en écoutant parler le speaker de la télévision.
Oui, oui.
Donc, il faut qu'il y ait des mots qui passent et dans leur sens normal.
Oui, oui. Et aujourd'hui, à votre avis, est-ce que la langue française est-elle enseignée aussi bien, mieux ou moins bien que du temps où vous étiez vous-même à l'école?
Moi, je ne vois pas de différence. Hein. Ouais. Il y a tellement peu d'années.
Oui.
Enfin, je sais pas, je vois avec certains de mes collègues profs de français qui sont tout jeunes, ils font des expériences passionnantes sur le plan du français et qui sortent certainement de l'ordinaire et de l'ordinaire pédagogique des lycées classiques. Maintenant, dans la majorité des cas, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. Enfin, il y a quand même que, disons qu'une dizaine d'années de décalage, hein, c'est pas énorme.
Bien sûr. Ouais. Et dans quelle matière étiez-vous le plus fort à l'école?
Sciences physiques, mathématiques et sciences physiques. Dans les petites classes, on ne faisait pas de sciences physiques, donc c'était les mathématiques. Ça m'a toujours beaucoup amusé. Bien que je ne sois pas tellement fort en maths, mais enfin, j'ai la chance d'avoir un père qui m'a appris la logique. Alors, partant de là, les mathématiques, ça devenait tout simple. Et puis, à partir de la seconde, physique et chimie.
Physique et chimie aussi.
Oui, physique et chimie, puisqu'on les enseigne ensemble.
Ah bon.
Et que, après tout, c'est la même chose.
Ça, je...
Si c'est l'explication du monde qui nous entoure,
oui, bon, oui,
phénomène
oui,
physique ou phénomène chimique.
Oui, à ce moment-là, bien sûr. Et habituellement, avez-vous quelque chose pour écrire sur vous?
Oui.
Certainement. Et vous avez un instrument et un carnet aussi, vous avez?
Carnet, non, je suis trop brouillon, mais enfin, j'ai toujours du papier sur moi. Okay. Je peux toujours prendre des notes, soit un carnet. Style agenda, soit du papier.
Oui, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez? Alors, vous avez là dans votre poche, qu'est-ce que vous avez là?
Bon, alors, de ce côté-là, oui, carnet de chèque, il y a un peu de papier.
Non, enfin, comme instrument pour écrire.
Un stylo et un stylo bille.
Un stylo? Alors,
stylo à plume, classique.
À plume, oui. Et un stylo.
Et un joli petit stylo bille, il y a trois couleurs. Fort cher, mais fort pratique. Bon, ça c'est une manie de professeur, avoir toujours un truc rouge sur soi pour corriger. Et une manie de physicien, avoir toujours de quoi noter en plusieurs couleurs. Parce que quand on fait un graphique en une seule couleur, c'est illisible.
Et alors, possédez-vous un stylo à plume? Oui.
Ça en
plus, et à la suite de quelles circonstances avez-vous possédé pour la première fois un stylo à plume?
Disons que c'est au cours de mes études.
Oui.
J'ai commencé comme tous les gosses, disons il y a 18 ans, avec la bonne plume sergent-major qui grattait, etc. Après, bon, on a continué ça avec le crayon pendant un certain temps. Ça a été la découverte, enfin puis le lancement sur le marché des stylos-billes, qui à l'époque fuyaient, étaient horribles. Bon, j'en ai eu comme tous les gosses. Et puis le stylo-plume qui est venu très vite,
oui.
Niveau de la 7e, c'est-à-dire de 10 ans.
10 ans.
Oui, à peu près, oui, 10 ans. Disons qu'actuellement, je ne l'aurais peut-être pas de la même manière. Actuellement, d'abord, ça vaut moins cher. Mm. Et actuellement, on fait de très bons stylos billes.
Mm.
Alors qu'il y a 15 ans, les stylos billes étaient quelque chose d'horrible.
Oui, d'accord. Et c'était seulement pour vos études, c'était pas...
Oui, c'était pour faire mes études. En même temps, c'était un cadeau. C'était
un cadeau. Le
premier stylo. Mais enfin, c'était... Pour moi, ça a toujours été un instrument de travail.
Oui. Hein,
au même titre que le stylo bille ou la règle à calculer.
Oui, d'accord. Et quand avez-vous écrit pour la dernière fois?
Bon, ça doit pas être bien loin, ça fait 4h15, disons que ça fait 1h30.
1h30.
2h, disons.
2h. Et c'était pourquoi?
Travail.
Travail? Enfin, un travail étudiant ou travail...
Un travail étudiant, mise à jour de notes. Enfin, vu mon métier, j'écris assez souvent pour mon travail et il m'arrive aussi d'écrire en dehors de mon travail, ne serait-ce que des lettres à des amis. Ou...
Et vous avez besoin d'écrire pour votre travail, oui. Et pour quel genre de choses?
Bon, alors, pour mon travail en tant qu'étudiant, prendre des notes, faire des croquis. Quand je me trouve au laboratoire, faire des comptes rendus d'expérience, ça, il faut écrire. D'ailleurs, très mal, comme tous les étudiants, on écrit comme des cochons. Et puis, pour mon travail en tant que professeur, alors, préparer mes cours,
Oui.
donc mettre par écrit des notes, et puis correction de copie, et ensuite écrire au tableau. Voilà.
Oui.
Alors là, il faut faire un effort pour écrire lisiblement.
Oui.
C'est pas évident d'écrire lisiblement au tableau. Surtout quand on a un certain nombre d'années d'études où on a pris des notes à toute vitesse, ça déforme l'écriture.
Et est-il important, selon vous, d'avoir une belle écriture?
Belle, ouais. Au sens artistique du mot, oui, pourquoi pas. Maintenant, ce qui est important, c'est d'avoir une écriture lisible.
Important d'avoir une, oui. Alors c'est, enfin, d'avoir une belle écriture, c'est enfin alors important, selon
Oui,
vous.
c'est important.
Oui, pas très important.
Si, enfin, belle écriture, sur le plan artistique, oui, si on aime l'art, c'est toujours beau, une belle écriture, c'est agréable à lire, ça c'est un fait. Mais d'autre part, ce qui pour moi est très important, essentiel, c'est d'avoir une écriture lisible. Si on n'arrive pas à transmettre un message, c'est pas la peine de l'écrire.
Oui, d'accord.
Donc c'est important.
Et enfin pourquoi? C'est surtout pour
J'ai expliqué, quand on écrit, c'est pour faire passer un message. Donc, il faut qu'on mette le paquet pour qu'il passe. Donc, il faut qu'il soit lisible. D'ailleurs, sur ce plan-là, j'apprécierais assez que les enfants au lycée apprennent à servir de machine à écrire. Ce qui n'exclut pas l'écriture manuelle,
Non.
mais c'est certainement un complément qui correspond à notre civilisation.
Est-il important selon vous d'avoir de l'orthographe?
Ah oui.
Très important, important, peu
Très
important.
important.
Très important. Pourquoi?
Pourquoi? Bon, parce qu'il faut toujours dans le message lisible, autant que possible, il faut s'exprimer correctement,
Oui.
savoir choisir ses mots. Alors ça, c'est le vocabulaire. Savoir les organiser, c'est la grammaire. Et savoir les écrire correctement, c'est l'orthographe. Il m'arrive souvent de me servir d'un dictionnaire. Même très souvent de me servir d'un dictionnaire. Beaucoup plus souvent maintenant qu'il y a, disons, 10 ans, à l'époque où j'étais en seconde, non, quatrième de lycée. Disons, je me suis aperçu de l'importance de l'orthographe et du dictionnaire plus tard.
Et seriez-vous favorable à une réforme de l'orthographe?
Oui, peut-être.
Très favorable, favorable, défavorable, très défavorable.
Favorable.
Favorable.
Favorable parce que faut pas non plus tomber dans la sténo. Ça existe, c'est autre chose, c'est fait pour ça. Maintenant, il y a un certain nombre de mots qu'on écrit de manière assez bizarre. Dans toutes les langues, c'est la même chose. Comme on est amené à apprendre des langues étrangères, autant simplifier. Les petits Anglais ont certainement des difficultés avec certains mots français, comme on en a avec certains mots anglais, qui s'écrivent pas pareil et qui se prononcent de la même manière, ou qui s'écrivent pareil et qui se prononcent différemment.
Oui, voilà, oui. Oui. Alors, favorable, enfin, juste à un certain point.
Il ne faut pas tomber dans la sténo.
Oui, c'est ça.
Manière, la simplification pour prendre des notes, bon, ben, même si on n'a pas pris la sténo, en tant qu'étudiant, on se fait une petite sténo
Oui,
personnelle,
bien
ce
sûr.
qui n'exclut pas de savoir écrire correctement le jour où on veut mettre nos notes correctement sur papier.
Oui, c'est ça. Et vous n'êtes pas marié?
Pas encore.
Non, pas encore.
Il viendra peut-être.
Oui. Combien de lettres écrivez-vous en moyenne par mois?
C'est éminemment variable. Ça dépend de l'endroit où je suis, de mes occupations.
Oui, mais à peu près, enfin, pour votre travail, vous en écrivez au travail et hors travail.
Ah non, bah, combien de pages d'écriture?
Non, enfin,
Ou
combien de lettres à peu près, enfin, en moyenne
de lettres? Mais comment entendez-vous lettres? Non, par exemple, la lettre à un ami.
Oui, enfin, une lettre, je ne sais pas, monsieur, j'ai l'honneur de vous
Oui,
lire,
d'accord.
etc.,
Bon, alors
ou
ça, sur ce plan-là,
chère.
c'est uniquement sur le plan ami. En disant que ça fera 2 ou 3 lettres par mois.
Deux, trois lettres par mois.
Mais c'est en moyenne, il va se passer des mois. La plupart de mes amis sont sur place.
Non,
Je ne vais pas
non,
leur écrire, puis il y a
oui, bien
une
sûr,
période de
non, non,
vacances.
non, enfin,
Par
justement,
contre,
il faut
si
que
on
j'aie une
compte,
moyenne
oui, bon, disons 2 ou 3 lettres.
deux,
Par
trois
contre,
lettres.
si on compte les pages d'écriture par mois, alors là, il faudra peut-être multiplier par 100 ou par 200.
Oui.
Hein.
Deux, trois
Plutôt par
lettres.
200.
Bon. Et enfin, pour votre travail, vous n'en écrivez pas.
Bon, pratiquement pas. Enfin, si ça m'arrive. La lettre au supérieur pour lui demander certaines choses ou une lettre à quelqu'un pour. Bon, peut-être, oui, ça fait peut-être une par mois, mais
Une par
pour le
mois.
travail, c'est rien du tout, quoi. Enfin,
Oui.
pour moi, par rapport à, disons, à mes pages d'écriture mensuelle, ça ne compte pas.
Oui. Et conservez-vous les lettres personnelles pour savoir?
Quand elles viennent, alors deux cas, elles viennent d'une administration, je dois les garder comme papier personnel, oui. Elles viennent d'un ami très cher, oui. Elles viennent d'une simple connaissance, non.
Non. Alors oui, pour enfin, des amis sincères.
Oui.
Oui. Et est-ce que vous les gardez toujours, souvent, rarement?
Quand toujours. Si vous voulez, par principe, bon, je reçois une lettre, j'y réponds. Pas obligatoirement tout de suite, ça peut prendre deux jours, une semaine. Bon. Souvent, je garde la lettre. Mmh. Très souvent, même quand elle vient de quelqu'un qui m'est cher, je garde la lettre. Mmh. Il m'arrivera de la relire plus tard ou oui. Quelquefois de ne pas la relire du tout. Bon, ça encombre mon bureau.
Oui. Et combien en possédez-vous environ?
Bon. Dieu que c'est dur à dire. Bon, ça doit faire ça fait un grand tiroir.
Et un grand tiroir.
Alors un grand tiroir, disons que si on classe, alors il y a le côté papier d'affaires, enfin papier de travail, qui fait une bonne partie. Je sais pas. Ça doit faire une centaine de lettres.
Une centaine de lettres.
Oui, peut-être. Oui. Oui. Il y a certaines que je tiens sur le plan sentimental.
Et, mm-hmm. Et quand vous écrivez à des amis, est-ce que vous faites un brouillon?
Non.
Non.
Non. Si j'écris pour mon travail, oui, je vais faire un brouillon, je vais chercher mon vocabulaire. Si j'écris à des amis, j'aurais toujours tendance à prendre un petit peu un style qu'on me reproche souvent, qu'on appelle télégraphique. C'est-à-dire que je vais noter les idées au fur et à mesure de leur présentation. Et puis ça sera sans brouillon parce que j'estime que quand on écrit à un ami, ça doit être spontané.
Mmh.
Alors je ne veux pas faire de recherche. J'en suis capable, la recherche, la diplomatie, les belles phrases trop polies pour être honnête, non. Pas question.
Pas question. Et pas de brouillon alors vous...
Non, pas de brouillon. Je pense à l'ami en question, j'ai envie de lui dire quelque chose, je lui dis comme je le pense.
Oui, d'accord. Et est-ce que vous faites attention aux fautes d'orthographe quand vous écrivez à un ami?
Ah oui. Oui. Mais ça, j'y fais attention. Quelquefois, je ne suis pas sûr de l'orthographe d'un mot, j'ai le dictionnaire à portée de main, pas de problème.
Et est-ce que vous relisez?
Oui.
Oui, toujours.
Et toujours.
Et avec quoi est-ce que vous écrivez? Stylo plume, stylo bille, stylo feutre?
Stylo feutre, j'aime pas tellement. Stylo plume, généralement, et quelquefois stylo bille.
Quelquefois,
ça va dépendre de l'endroit. Quelquefois, je fais beaucoup. Je voyage beaucoup en train entre Orléans et Châteauroux. Il m'arrive assez souvent d'écrire en train.
Mm.
Bon, là, j'écris qu'un stylo bille.
Oui.
C'est plus pratique. Sinon, mais ça dépend de l'inspiration du moment.
Oui.
Ouais, de toute manière, avec un instrument qui écrit bien.
Oui, oui.
Un stylo bille de bonne qualité, pas une cochonnerie qui bave dans tous les coins.
Et une machine à écrire
Des amis, non. De toute manière, je tape très mal. Il m'arrive de m'en servir, mais c'est plutôt pour des lettres officielles.
Et un porte-plume non plus?
Non. Ça, j'ai abandonné ça. passé au musée depuis 15 ans.
Oui, d'accord. Et quel type de papier utilisez-vous? Un carreau, à ligne
21-27 blanc, de bonne qualité. C'est-à-dire épais, glacé. Sans carreau.
Sans carreau.
J'aime le beau
ligne
papier.
Ligne derrière?
Non.
Non, blanc. Tout bon. Voilà. Et quand vous devez écrire... Oh, justement, j'ai une question. Quand vous devez écrire, ou si vous deviez écrire au professeur à l'école de votre enfant, est-ce que vous feriez la même chose? Enfin, c'est un peu difficile quand même.
Oui, pour moi, ce serait sur papier libre, papier blanc, toujours du papier de bonne qualité. J'apprécie le beau papier.
Mm.
Et mon Dieu, bon, ça serait quand même une lettre, disons, dans le style lettre d'affaires. Mm. Monsieur, bon, et puis veuillez agréer monsieur, etc.
Oui, oui, bien sûr.
Mais enfin...
Mais vous feriez un brouillon ou vous n'en feriez pas?
Si j'ai des questions compliquées à poser, peut-être, pour arriver à les ordonner.
Oui,
c'est possible.
Oui.
Bon, enfin...
Et pour, enfin, faute d'orthographe, instrument et papier, ce serait pareil. Est-ce que vous... enfin, vous ferez quand même, si vous écriviez au professeur, vous feriez quand même attention aux fautes d'orthographe.
Ah ben, toujours, ça, comme j'écris,
et
toujours.
Et puis l'instrument, vous lui écrirez avec un stylo bille ou...
Toujours avec un instrument qui écrit bien.
Oui.
Soit stylo bille, soit stylo plume, maintenant on en trouve qui écrivent très bien dans les deux catégories et sur du beau papier.
Oui, d'accord. Et pour une lettre officielle?
Le même papier,
oui.
Le même instrument de travail, enfin souvent un stylo plume puisque c'est traditionnellement admis, et là je ferai un brouillon.
Oui, brouillon, certainement.
Oui.
Oui, et instrument, surtout un stylo à plume. Alors.
Stylo plume surtout, oui.
Et à l'école, est-ce qu'il y a des choses qui vous agacent dans la façon de parler des élèves, des enfants?
Non. Non, ils ont peut-être des tics de vocabulaire, j'en ai d'autres.
Oui.
Bon, c'est pas là que... Ce qui m'agace quelquefois, c'est d'entendre certains de mes collègues, entre autres certains vieux professeurs de langue, de français, entre autres, qui utilisent un vocabulaire très recherché. Oui. Bon, quand on voit le milieu dans lequel sont... le milieu d'où viennent les gosses, on est sûr que ça passera pas.
Oui.
Alors, ça paraît un peu bizarre.
Oui.
Mais sinon, si je suis le plan des gosses, non. Ils sont tels qu'ils sont, c'est à nous d'essayer de les faire évoluer. Mm. Nous, professeurs ou parents, c'est la même chose. Alors, on n'a pas à s'agacer de ça. Si on n'est pas d'accord, on doit essayer de les faire évoluer. Mm. Mais il n'y a pas à s'agacer au départ. Mm,
d'accord. Et il ne vous arrive jamais de les reprendre, alors, si il n'y a rien.
Si, ça m'arrive assez souvent, puisque bon, j'enseigne les mathématiques, entre autres les mathématiques modernes. Où la logique et le vocabulaire ont une extrême importance. Mm. Donc quand je leur demande de me définir quelque chose, de sortir une conclusion, il faut à ce moment-là que chaque mot vienne à sa place. Oui. Alors là, je les reprendrai, pas brutalement, mais c'est pour leur apprendre à parler et à s'exprimer clairement, de manière la plus brève possible, puisque là, il faut être bref, et de manière la plus précise.
Oui. Et est-ce qu'il y a des mots que vous interdisez de prononcer ?
Absolument pas.
Non ? Aucun mot ?
Disons que quand un élève me sort un gros mot en cours, ce qui est rarement arrivé, j'essaye de lui faire comprendre que ça pourrait peut-être éviter de sortir ce vocabulaire-là. Ça arrive, mais enfin, a priori, je vois pas de mots à interdire. Mmh. Alors, si le gosse a appris des gros mots puis qu'on lui a pas appris qu'il faut s'en servir que, disons, dans un certain langage, qui n'est même pas conseillé, enfin, que, toléré dans certains cas, question de les sortir dans un langage un peu plus recherché.
Et vos parents, faisaient-ils attention à la façon dont vous parliez ?
Oui, certainement.
Oui. Et qui vous reprenait le plus souvent ?
Il y a deux cas sur le plan, disons, du vocabulaire un petit peu paillard ou un peu grossier. Les deux, enfin plutôt ma mère. Mmh. Et puis sur le plan du vocabulaire recherché, c'est-à-dire des définitions... quand j'étais petit, ma mère et mon père de manière égale, et plus tard, c'était surtout au cours des discussions avec mon père,
oui, oui.
Où on fouillait un peu plus le vocabulaire.
Oui.
Enfin là, les deux ont eu quand même une très grosse influence sur ma formation linguistique, hein, pas de problème. Mes parents, tous les deux, ont eu un assez bon niveau d'instruction, donc une culture certaine, ce sont tous les deux d'assez grands lecteurs. Mm-hmm. Alors, ils ont un bagage linguistique qu'ils ont essayé de me transmettre.
Oui, oui. Et alors, ce serait surtout pour, comme vous avez dit, les gros mots ou le vocabulaire un peu, genre, pas grossier, mais genre argotique peut-être, tout ça, votre mère. Puis,
bien.
Surtout,
Oui, disons que j'ai, à un certain moment de mon évolution, bon, c'est la période des 15-16 ans, c'est bien classique chez les adolescents, il y a la période où on emploie tout le vocabulaire argotique, c'est bien connu. Ça n'a pas tellement effrayé mon père, qui, étant psychologue, savait que ça me passerait certainement. Ça a un peu effrayé ma mère, bon, et puis ça a duré un an ou deux.
Oui.
Alors à ce moment-là, j'étais repris surtout par ma mère sur ce plan-là.
Oui, oui. Et prenait-il des sanctions quelquefois ?
Non. Mmh. Non, on faisait remarquer que ça ne se faisait pas, et puis c'était tout.
Oui. Pas question de prendre des sanctions. Bon, ben, je crois que... Enfin, c'est presque terminé. Y a-t-il chez vous un ou des dictionnaires ?
Alors, chez moi, personnellement, il y a deux dictionnaires de la langue française et une encyclopédie méthodique.
Une encyclopédie méthodique. Les deux dictionnaires, c'est...
J'ai deux petits Larousse, un Larousse normal et puis un autre, qui complète un petit peu le premier, quoi.
Oui. C'est quoi c'est exactement ça c'est plus petit encore que le Larousse.
Non, c'est deux Larousse, tous les deux.
Tous les deux, les mêmes.
Oui, un, bon, c'est le petit Larousse classique,
oui.
Et l'autre, il s'appelle Dictionnaire Larousse, je sais plus, il est un peu plus petit, disons.
Oui,
enfin,
oui.
Pour moi, c'est des instruments de travail sur le plan vocabulaire et surtout orthographe.
Oui, oui.
Alors que l'encyclopédie est un instrument de recherche,
Et définition. Vous avez quelle encyclopédie ?
Larousse Encyclopédie Méthodique en deux volumes.
Larousse Encyclopédie Méthodique.
Oui. C'est un des plus jolis cadeaux que j'ai jamais reçus.
Méthodique. Deux volumes.
C'est-à-dire, au lieu d'être une encyclopédie alphabétique, c'est traité par chapitre, ah, avec oui. un petit index alphabétique à la fin qui renvoie au chapitre en question.
Et où est-ce que vous les gardez ?
Sur mon bureau, à portée de main.
Sur votre bureau.
Ça, ils ne sont pas rangés dans un tiroir, ils sont à portée de main parce qu'ils servent souvent.
Oui. Et depuis quand est-ce que vous les avez ?
Le dictionnaire. Alors, le premier Larousse, bon, je l'ai eu en 7e, c'est-à-dire à l'âge de 10 ans, même pas 9 ans. Enfin, 10 ans. Quoi.
9-10 ans.
Oui, 9-10 ans. L'encyclopédie, je l'ai eu à 19 ans.
19 ans.
Et l'autre, je l'ai acheté incidemment il y a 4 ans, oui, j'étais 19 ans aussi.
Oui. Pédie.
Et d'ailleurs, je sais que il faudra que je me rachète une encyclopédie, puisque ce n'est pas un instrument éternel, hein, ça, ouais. ça évolue très vite.
Oui.
Et malheureusement, ça coûte très cher. Ouais.
Et c'est, enfin, tout, les encyclopédies et les dictionnaires, c'était des cadeaux c'était...
Non, le premier dictionnaire, c'est un instrument de travail, quand je suis rentré en 7e.
C'était, enfin, vous l'avez acheté à un représentant ou en
fait, Non, ça faisait partie des livres que je devais avoir et mes parents l'ont acheté.
Oui.
L'encyclopédie est un cadeau.
Oui, ils l'ont acheté à un représentant ou
Non, dans une librairie.
Une librairie, oui. Et l'autre
L'autre dictionnaire, je l'ai acheté moi-même dans une librairie aussi, parce qu'on avait besoin.
De la Rousse. Et le cadeau, c'était, enfin l'encyclopédie, c'était un cadeau.
C'est un cadeau, oui.
Bon. Enfin, il y a la question qui s'en sert le plus souvent, c'est vous.
Oui, je suis le seul, donc c'est moi. Enfin, à la maison, enfin chez mes parents, où j'ai encore une sœur, chacun a son dictionnaire et c'est pas un instrument caché, hein. C'est un instrument d'usage courant.
Oui, alors tout le monde s'en sert.
Tout le monde s'en sert, indifféremment.
Oui. Et vous, enfin, combien de fois par mois, par exemple
Oh mon Dieu, c'est difficile à dire. J'écris souvent et il m'arrive assez souvent, je suis assez distrait, et il m'arrive assez souvent de ne plus savoir l'orthographe d'un mot. Alors sur ce plan-là, je me servirai du dictionnaire. Bon. Peut-être 10 fois dans une journée, puis pas du tout pendant une semaine ou pendant 2 semaines. Ça va dépendre de mes occupations. Oui. Quand j'ai que des formules à écrire, j'ai pas besoin de dictionnaire.
Mmh. Enfin, grosso modo, 40 fois, 50 fois.
Disons 30 fois dans le mois, peut-être. Oui, alors, une fois par jour en moyenne, ça doit faire à peu près ça.
Oui. Oui. Et c'est pareil pour le dictionnaire et pour l'encyclopédie, enfin, l'encyclopédie.
Non, c'est le dictionnaire, ça.
Oui.
L'encyclopédie, c'est plus différent. Alors l'encyclopédie, comme c'est une encyclopédie par chapitre, il m'arrive de prendre un chapitre puis de le lire d'un bout à l'autre, ou de le relire d'un bout à l'autre. Disons quand c'est pas mon domaine particulier, parce que quand c'est la physique ou la chimie, j'ai mes livres d'étudiants qui sont plus poussés.
Oui.
Sinon, quand j'ai besoin d'une définition, j'ai besoin d'un complément, je vais prendre l'encyclopédie. Alors là, c'est moins courant. Je ne peux pas te donner de chiffres.
Non.
Non, il y a par exemple un moment où j'ai fait un peu de recherche sur le plan photographique pour faire un petit imprimé pour diffuser auprès des jeunes. Je me suis servi de tout un tas de livres et entre autres de l'encyclopédie pendant 15 jours de manière intensive.
Oui.
Et puis des dictionnaires aussi. Et puis il m'arrive pendant un mois de ne pas y toucher. Alors je ne peux pas donner de chiffres. Hein. Ça serait trop arbitraire.
Oui, d'accord. Et quand l'avez-vous regardé pour la dernière fois, votre dictionnaire ?
Le dictionnaire, c'est hier soir.
Hier soir.
Et l'encyclopédie, ça fait... On est jeudi. Alors, mercredi, j'étais pas, c'était mardi.
Merde. Hier, ce dictionnaire, mardi. Alors, ça fait... Il y a deux jours. Et quel genre de choses y cherchez-vous le plus souvent ?
Alors, dans le dictionnaire, c'était de l'orthographe.
L'orthographe, oui.
Et des définitions de mots. Quelquefois, quand j'ai besoin d'un langage très précis, je reprends la définition du mot. Mm-hmm. Dans l'encyclopédie, c'est des renseignements.
Des renseignements, oui. Surtout, en ce moment-là.
Ah oui, bah, ça va dépendre du sujet que je suis en train de traiter.
Oui.
J'ai besoin d'un renseignement, je vais m'adresser à un ouvrage encyclopédique si je n'ai pas d'ouvrage particulier sur la question. Quoi.
Oui. Oui. Et... Possédez-vous un livre sur l'art de parler, l'art d'écrire, les difficultés de la langue française, comme ça.
Non, il y a tout un chapitre dans mon encyclopédie là-dessus, que j'ai d'ailleurs lu, mais je n'ai pas de livre particulier.
Oui, d'accord.
Sur la... J'en ai lu, mais je n'en possède pas.
Vous possédez un guide de savoir-vivre
Non. Il y en a aussi un encyclopédie, je l'ai lu par curiosité, mais il est très drôle. C'est très dépassé.
Oui. Et puis, vous en avez lu des difficultés, alors. Et vous ne vous rappelez pas des livres que vous avez lus par hasard sur l'art de parler et tout ça?
Les titres, non. Non. Je suis incapable de me rappeler des titres des auteurs. Bon. Je sais que sur le savoir-vivre, j'en ai lu qui étaient des monuments de...
Oui.
Enfin, artistiques, quoi.
Oui.
C'était très joli.
Bon, ben alors je crois que c'est la fin de l'enregistrement. Et alors, pour la première partie, ce serait censé... Et y a-t-il des membres de la famille qui ont fait, font ou feront leurs études dans un établissement privé, un établissement libre?
Non, personne.
Personne.
Ma sœur est actuellement étudiante, donc en faculté, moi aussi.
Et votre... le diplôme que vous avez, c'est... Vous avez,
Je suis licencié, licencié en physique.
Et vous préparez une maîtrise?
Je prépare une maîtrise et le CAPES. C'est-à-dire la maîtrise, c'est l'année au-dessus, et puis le CAPES, qui n'est pas un examen, mais un concours. Ce qui paraît bizarre, mais enfin, c'est comme ça.
Oui. Et le nombre d'années d'études, alors, primaire compris?
J'ai commencé école primaire, j'ai commencé à 6 ans. Avant, j'avais dû faire un an ou deux d'école maternelle, j'en ai 23. Ça fait donc 17 ans d'études.
Et vous avez étudié le latin?
Oui.
Oui. Le grec?
Non.
Non. Type d'études et conditions de la scolarité? Primaire, c'était dans les établissements publics.
Oui, oui, tout dans le public, une école de quartier.
Public.
Secondaire, public. Lycée, tous les deux.
Oui, lycée. Enfin, les deux lycées, premier cycle et...
Et non, puisqu'à l'époque, il y avait un seul lycée.
Ah bon, d'accord,
Il y avait à l'époque des lycées et des CEG.
Oui.
Comme on faisait partie de la classe bourgeoise, on allait au lycée.
Bon, d'accord. Lycée et école primaire, alors tout. Alors, il y a des diplômes de l'école primaire
Oui, théoriquement, il y a le certificat d'études, je ne l'ai jamais passé, ma sœur non plus.
Bon.
Ensuite, il y a le BEPC en fin de premier cycle de lycée.
Oui.
Ni l'un ni l'autre ne l'a passé.
Oui.
Et on a tous les deux passé notre bac en fin de scolarité.
Oui. Et où alors est-ce que vous
avez passé? J'ai passé mon bac à Orléans, ma sœur aussi.
Orléans. Au lycée classique
Oui.
Oui. Et supérieur, alors
non,
c'est...
supérieur, faculté d'Orléans. Oui. Pour moi et faculté de Tours pour ma sœur. Enfin, une des facultés de Tours.
Oui. Et licence alors?
Oui, licence.
Et la maîtrise en préparation, si on dit ça. Voilà, je crois que... je ne sais pas, externe, est-ce qu'on peut être interne ou externe?
Oui, j'étais interne un an. Et demi-pensionnaire tout le reste de mon existence de lycéen. Une excellente expérience de vie en collectivité d'ailleurs.
Oui. Et on n'est pas interne ni externe à l'université ici en France
Non, non. Disons qu'on peut résider en cité universitaire, mais non. Habitant à Orléans, j'habitais soit chez mes parents, soit ensuite chez moi.
Et vous écoutez la radio?
Oui.
Oui. Enfin, vous écoutez à peu près combien d'heures par semaine? Enfin, grosso modo, quoi.
Bon, disons une heure par jour en moyenne.
Une heure par jour. Oui. 7 heures alors par semaine.
Oui, à peu près.
Et votre chaîne préférée?
Il y en a deux. Information, c'est Europe numéro 1. Mais uniquement pour l'information, parce que les variétés sur Europe, c'est pas tellement de mon goût, mais enfin, ça c'est... un caractère un peu bizarre, et le reste du temps, c'est en modulation de fréquence, soit France Culture, soit France Musique. C'est-à-dire de la musique.
Oui, France Culture.
Que j'aime assez, quoi.
Musique.
Oui.
Voilà. Et vos émissions préférées
Bon, alors, sur Europe numéro 1, c'est les journaux, hein, oui. Le journal de parler. Mmh. Et puis sur France Musique ou sur France Culture, c'est soit des émissions musicales, mmh. soit des conférences. Il y en a assez souvent sur France Culture, enfin disons des causeries. Mmh. Surtout d'un tas de sujets, tous aussi passionnants les uns que les autres. Oui. D'ailleurs.
Enfin, vous n'avez pas une émission préférée que vous écoutez toutes les semaines, enfin,
non. Non. De toute manière, j'ai un style de vie qui m'interdit de prévoir une semaine à l'avance si je serai libre.
Et est-ce que vous regardez la télévision ?
Rarement.
Rarement.
La télévision est rentrée à la maison du temps où j'habitais chez mes parents. Disons le jour où j'en suis sorti, ou pratiquement. Mm. Mon père était toujours contre la télévision, il l'a acheté parce qu'il a eu envie de suivre des cours du soir en télévision, les cours du Conservatoire des Arts et Métiers, mm-hmm. parce que pour son travail, il avait besoin de meilleures connaissances en mathématiques. Mm. Bon, et puis ce qui fait que quand je me trouve chez mon père, il nous arrive de regarder un film, c'est pas systématique. On n'est pas né avec la télévision et pour nous, c'est pas un besoin.
Vous n'avez pas un nombre d'heures d'écoute par semaine?
Non, je peux passer deux soirées devant la télévision d'affilée. Si par hasard je me trouve chez mon père puis que j'ai rien d'autre à faire.
Oui.
Et puis pendant un mois, je peux très bien ne pas voir la télévision.
Et vous n'avez pas de chaîne préférée?
Non. Non, je les trouve aussi mauvaises l'une que l'autre. Il y a de temps en temps de bonnes émissions, mais elles sont tellement rares que...
Oui. Émission préférée, vous n'avez pas alors?
Sur le plan télévision, non.
Genre d'émission, qu'est-ce que vous regardez
enfin... Bon, il y avait ces fameux cours, j'en ai suivi oui. certains sur l'électronique, etc. Mais enfin, ça c'était très particulier. Oui. Sinon, de temps en temps, des variétés ou un film, surtout des films, quoi.
Oui, variétés.
Et les films quand ils sont pas trop mauvais.
Oui, oui. Et est-ce que vous allez au cinéma?
Ça m'arrive assez souvent.
Oui, oui. Assez souvent.
La fréquence, oui, assez souvent pour moi, ça veut dire. L'an dernier, ça faisait, disons, deux ou trois fois par mois. Cette année, ça fait au maximum deux fois par mois.
Deux fois par mois. Et vos films, la sorte de film préféré, vous en avez
Deux genres. Ou le film bête et méchant, mais qui va faire rire pendant deux heures.
Oui.
Bon, ça va délasser, on pensera à rien, c'est un peu l'équivalent visuel du roman policier,
oui.
hein, ou du livre drôle, ça évite de penser, ça repose, et puis disons le film bien où le cinéaste a eu envie de dire quelque chose, quel que soit ce qu'il a envie de dire, bon, il l'a dit, et puis c'est intéressant de l'écouter, de le voir, et puis d'essayer d'y réfléchir, ce qu'on appelle les films à thèse, quoi.
Oui, films à thèse.
Maintenant, aller voir systématiquement Bourville ou quelques autres, non.
Non.
Ah, une fois de temps en temps, ça fait bien rire, mais il ne faut pas en abuser. Parce que
oui. Alors, en général, de temps en temps, vous iriez voir alors, des films bêtes et méchants, mais
oui,
plus souvent quand même.
Film à thèse, ou alors ce qu'on appelle le film d'arrêt d'essai, quoi.
Oui.
Film moderne, des essais sur le plan cinématographique. Quelquefois, des films qui sont très beaux. Qui ont un message et qui sont à la fois très beaux sur le plan artistique.
Oui.
Je pense à un film qui m'a beaucoup marqué, deux films qui m'ont beaucoup marqué sur ce plan-là. Un film qui avait vraiment un message à faire passer, c'était L'île nue, un film japonais en noir et blanc, mais extraordinaire.
Oui.
Et puis un autre film assez curieux que j'ai beaucoup aimé, c'est West Side Story.
West Side Story.
Qui était une recherche sur le plan chorégraphique qui était formidable. Bon, il racontait une histoire, il avait peut-être même quelque chose à dire. Enfin, ce qui était le plus marquant, c'était ce style qui n'était pas connu à l'époque,
oui, oui.
qui était plus ou moins copié, avec peu de bonheur généralement.
Oui. Et à votre avis, la radio, la télévision et le cinéma sont-ils des instruments de culture?
Ah oui, certainement.
Oui.
Ça, je l'ai déjà dit
tout à l'heure.
La radio... Oui, la radio, oui, c'en était un, c'en est plus tellement, puisque maintenant, c'est surtout la télévision.
Mm.
On rentre dans n'importe quel foyer, il y a la télévision, et ce qui est malheureux, c'est que les gens ne dégustent pas la télévision.
Oui.
Ils engouffrent l'image et le
oui.
son.
Mmh.
Ça, je n'apprécie pas.
Et le cinéma aussi
le cinéma, il n'y a quand même pas tellement de gens qui vont au cinéma.
Mmh.
Hein, on reste les pieds dans les pantoufles devant le poste de télévision. Alors, cinéma, il y a deux genres. Où il y a le gros film, disons, qui va bien marcher parce que les gens vont aller le voir. Il raconte une belle histoire d'amour du style Nous deux ou Confidence. Je ne sais pas, j'aime pas tellement. Alors là, je trouve pas que ça a un gros caractère culturel. Films du style art et essai ou des films, disons, au sens large éducatifs, parce que très bien faits, parce qu'ils vont nous éduquer sur le plan visuel, sur le plan de la construction, oui, certainement, mais il faut voir des salles d'art et d'essai, ce n'est pas des grandes salles, il n'y a pas un gros public. Hein.
Mmh. Enfin, vous dites oui, mais avec...
Surtout la télévision, oui, quoi. Oui, ça, oui, ça peut être, mais je pense pas que ça en soit. Hein.
Oui. Et est-ce que... Enfin, on va parler des hobbies. Enfin, des... Qu'est-ce qu'on dit en français? Des dada...
Non, dada. Oui, dada.
Oui, des dada, bon, hobbies. Alors, est-ce que vous faites de la photographie?
Ah oui, je fais beaucoup de photographie, c'est mon hobby, j'adore la photographie, j'en fais le plus possible.
Oui, et nombre de films par année, dans l'année?
Oh mon Dieu. Bon, ouais. ça va dépendre, on ne peut pas dire par année, parce que ça va dépendre des périodes. Disons une période comme actuellement où je travaille, où je n'ai pas tellement le temps d'aller au laboratoire. Quand je suis avec des jeunes, donc on va faire de la photo, je vais essayer de leur apprendre, donc mes photos personnelles passeront après. Par contre, je me trouve en vacances, et eh bien ça va dépendre aussi de l'appareil. Par exemple, avec un 24-36, il y a 36 photos dans le chargeur, et il m'arrivera de faire 2 pellicules par jour, et ce pendant 3 semaines. Mmh. C'est-à-dire que je vais revenir avec une valise de films que j'exploiterai au long de l'année. Il y aura un gros rebut, puis il y aura des photos qui m'auront plu, enfin qui m'accrocheront, que je travaillerai. Mmh. Mais c'est très variable, enfin c'est énorme.
Mmh. Oui, mais alors grosso modo, film dans l'année, c'est à peu près.
Ben, actuellement, je travaille surtout avec un 6-6, c'est-à-dire un appareil qui fait 12 photos par film. Par exemple, une soixantaine de films par an.
Soixantaine de films par an. Mmh.
Et un gros trou dans le budget.
Oui.
Film en noir et blanc surtout.
Oui.
Couleurs, je ne suis pas encore à même de les développer moi-même. Mmh. Et j'apprécie surtout le travail au laboratoire où on fait la photographie à partir d'un petit bout de négatif où on a déjà mis quelque chose. Là, on va vraiment s'exprimer à fond.
Oui. Et est-ce que vous avez un genre de photo préféré en face de vous?
Oui. J'aime assez le paysage. Mmh. Mais disons que. Ce que j'aime par-dessus tout, quand je peux le faire, c'est du portrait. Enfin, portrait, c'est même pas le mot qui convient, ce serait plutôt l'être humain.
L'être humain.
Hein, l'être humain, bon, généralement, c'est le visage, mais pas dans le style portrait statique. Je gâche énormément de photos en prenant les gens sur le vif. Bon, et puis sur 10 photos, il y en aura peut-être qu'une qui sera exploitable, et puis sur 10 exploitables, il y en aura une qui sera vraiment bonne. Enfin, qui voudra dire quelque chose qui représentera bien l'individu. Je ne suis pas tellement partisan de souriller, dit cheese. Non, j'aime pas.
On dit dire cheese en
français. Oh, c'est passé aussi, c'est du franglais maintenant pour les photographes.
Justement, parce que si on dit fromage,
ça ne convient pas.
Ça ne convient pas du tout. Alors, l'être humain surtout, et puis paysage aussi.
Le paysage, mais dans ce cas-là, le paysage sauvage. Je me suis un peu amusé à faire du paysage de ville. Si on a ces constructions de béton, essayer de trouver une harmonie dedans, c'est pas toujours facile. Ce que j'aime surtout, c'est le paysage, la montagne. J'adore la montagne. Mmh. Alors là, c'est là. Quand je suis en montagne, je passe des pellicules et des pellicules sur du paysage pour en tirer, disons, sur 100 photos, 3 ou 4 grandes photos que je ferai en grand format, que je travaillerai parce qu'il y a quelque chose.
Oui, d'accord. Et est-ce que vous regardez ou est-ce que vous faites de la peinture?
Non. Non, je ne suis pas du tout doué pour le dessin et la peinture. C'est peut-être pour ça que j'ai fait de la photographie.
Mais est-ce que vous avez des peintres préférés quand même
J'aime beaucoup la peinture, mais des peintres préférés, on ne peut pas tellement dire.
Non.
Non, j'aime certains genres de peinture, il y en a d'autres que je n'aimerais pas. Et puis dans un même auteur, il y a des peintures que j'aimerais. Prenons le cas Picasso, qui est assez curieux dans ce genre-là. Cet individu a fait toutes sortes de genres. Bon, il y a certaines peintures de Picasso que je trouve très belles. Mmh. Et puis, bon, il y a quelque chose, il y a les atomes crochus, quoi. Et puis, il y en a d'autres, non. Je trouve ça, c'est une construction avec des couleurs, et puis ça ne me dit rien.
Oui. Mais alors, il n'y a pas une école, ni un genre.
Non, parce que je peux aimer des peintures figuratives ou d'autres complètement abstraites, et puis. Mmh. Et puis dans la même école, il y a des peintures que je n'aimerais pas.
Oui, d'accord. Est-ce que vous visitez les musées
C'est pas, disons, une tradition familiale, mais enfin, ça m'arrive. À condition d'avoir le temps.
Oui,
le musée au pas de course, comme on fait dans les voyages touristiques, j'aime pas. Dans ce cas-là, le musée, j'y passerai le temps que je pourrais. C'est des musées de tout poil. Il m'est arrivé de visiter des musées de peinture, mais aussi des musées scientifiques. Je me rappelle par exemple à Munich avoir visité à la fois l'Alte Pinakothek, c'est un grand musée de peinture ancienne extraordinaire, et puis d'avoir passé des heures et des heures dans le Deutsches Museum, qui est un musée technique, Et dans les deux musées, j'aurais voulu pouvoir y passer une semaine, parce que c'est, on y trouve de tout.
Oui.
Il faut pas être pressé, là, j'avais que deux jours à y consacrer. Mmh. Et en France, c'est la même chose.
Oui, bien sûr. Et vous pourriez me donner alors une fréquence des visites au musée?
Non. Non, puisque c'est surtout pendant mes périodes de... les musées d'Orléans, ce n'est pas la peine d'insister, on a très vite fait le tour. Ensuite, bon, quand par hasard je me trouve à Paris, j'ai pas tellement le temps d'aller au musée, ça m'arrive rarement. Quand ça m'arrive, j'en profite et puis c'est pas chiffrable. Ou alors, quand je me trouve en vacances dans une grande ville, soit en France, soit à l'étranger, enfin, surtout à l'étranger dans une capitale, parce que même dans les grandes villes françaises, il n'y a pas tellement de musées. Il y en a, mais c'est pas énorme. Alors que je vois à Munich, il y avait pas mal de musées, dans d'autres villes aussi, à Bruxelles aussi. Bon, bien là, on y passera le temps. Puis pendant le séjour, je ferai peut-être 4, 5, 6 musées. Enfin, c'est pas énorme comme nom, mais c'est des musées que j'aurais visités.
Oui.
En passant le temps.
Oui, oui.
Alors, c'est pas chiffrable, ça.
C'est pas chiffrable. Et les expositions en musée?
Ça m'arrive.
Oui.
Ça m'arrive. Je vois une affiche, ça m'attire, je vais voir.
Oui.
Du style d'une exposition de peinture, rarement. Une exposition de photos, le plus souvent possible.
Oui.
Là, par exemple, il y a à Orléans une exposition de tapis actuellement. Je vais y aller parce que j'ai vu l'affiche hier soir, puis j'ai envie d'y aller parce que la peinture, j'ai envie de ça me plaît.
Et combien de fois par an?
Non, chiffrable non plus. Ça.
Non,
mais non, mais c'est la même chose. On se trouve ici dans une ville, il va y avoir des expositions. Oh, il y en a de temps en temps. Certaines qui me déplaisent, bon, enfin, j'ai pas envie d'y aller, quoi.
Oui, oui.
Puis il y en a d'autres, j'ai envie d'y aller. Bon, mais s'il y en a deux dans un mois où j'ai envie d'y aller, j'irai. Et puis après, il se passera peut-être 3 mois ou même 1 an sans que j'ai envie d'y remettre les pieds.
Alors, il n'y a vraiment pas de fréquence.
Non, puis si j'avais plus de temps, j'irais peut-être plus souvent parce que ça m'intéresse. Si je me trouvais dans une autre ville, par exemple à Paris, j'irais peut-être plus souvent parce qu'il y a plus de possibilités. Ça dépend de tellement de facteurs, non. Je peux pas donner de chiffres.
Bon. Et vous aimez la musique alors?
Oui.
Et vous avez des compositeurs préférés?
Oui. Disons la musique classique. Mon morceau préféré, enfin ça c'est un peu sentimental, c'est Peer Gynt de Grieg. Grieg. Puis ensuite, je n'aime pas la musique trop solennelle du style Wagner ou autre, un peu lourde. Mais enfin, tous les compositeurs un peu légers, Vivaldi, Strauss, et puis quelques autres même plus classiques. Enfin, de la musique classique et délassante. Enfin, moi, je la trouve belle et, puis et pas pesante. C'est de la musique que je peux écouter pendant des heures.
Et vous n'avez pas un compositeur, par exemple, Bach, qui est centre de l'univers?
Non, absolument pas. Vous voyez, par exemple, j'ai dit en premier Peer Gynt parce que bon, c'est un des morceaux de musique classique que j'ai vraiment découvert dans les premiers. Ce que j'appelle découvrir, c'est vraiment l'apprécier à fond, parce que j'ai l'occasion d'apprécier, puis il y a des raisons sentimentales là-dessus. Les autres, non, c'est suivant l'inspiration du moment. Bach, oui, il y en a d'autres. Mais je ne suis pas comme certains qui disent, voilà, il y a Bach, il n'y a rien d'autre. Non,
D'accord.
Pour moi, il y en a certains que je n'apprécie pas. Par exemple, Wagner, bon, ben, Wagner, ça va bien pour, disons, un grand 33 tours, pas 36 d'affilée, alors que certains compositeurs, Bach, Beethoven, je peux les écouter pendant 4, 5 heures, ça ne me gêne pas. Si par hasard, je trouve 5 heures pour les écouter, ce qui est encore un problème, mais ça m'arrive.
Et vous avez un électrophone?
Oui.
Oui, oui, vous en avez un. Et est-ce que vous allez au concert?
Non.
Non.
Non, faut dire que les concerts à Orléans, il m'est arrivé d'aller au concert, par exemple à Bourges, en me trouvant au Festival du Théâtre de Bourges, à Maison de la Culture de Bourges, qui est un outil merveilleux pour les comédiens et pour les acteurs. À Orléans, non, il suffit de mettre les pieds une fois dans le théâtre d'Orléans pour ne plus avoir envie de les remettre, même si la pièce est bonne.
Ah bon.
Il est franchement horrible.
Et vous ne pourriez pas me donner une fréquence pour les concerts?
Mais non, c'est la même chose. Par exemple, je me suis trouvé à Bourges pour le Festival du Théâtre il y a 2 ans. Pourquoi? Parce que j'avais envie d'y aller, et puis j'animais un groupe de jeunes là-bas aussi. Je faisais un accueil de jeunes là-bas. Et bien, chaque fois que j'avais un moment de libre, j'étais au théâtre, soit dans la journée, soit le soir. Bon, ben là, j'ai passé 10 jours pratiquement à vivre dans l'ambiance théâtre, puis c'était merveilleux. Maintenant, quand je suis ici, il m'arrive d'aller au théâtre, mais bien sincèrement, je préfère faire 100 km pour aller au théâtre à Bourges que d'aller ici. C'est toujours la même chose, c'est hideux, c'est horrible, c'est pas confortable, c'est... On est toujours derrière une colonne et mal assis, on voit rien, on n'entend rien. Alors je préfère dans ce cas-là ouvrir le... tourner le poste, le bouton de mon poste et puis écouter une pièce de théâtre sur France Culture, ce qui m'arrive assez souvent.
Et vous allez au théâtre alors seulement quand vous pouvez aller à Bourges?
Oui, à Bourges ou ailleurs, concert, enfin, aller dans un théâtre qui se tienne, quoi, puis il y a autre chose que les tournées barrées.
Et est-ce que vous avez des auteurs préférés?
Sur le plan théâtral, j'aime assez Tchekhov.
Tchekhov.
Je l'aime tant sur le plan livre que sur le plan théâtral. Enfin, c'est aussi un amour de jeunesse. Disons que je n'aime pas... Enfin, a priori, je n'aime pas tous les auteurs classiques français. Je les ai tellement vus sous un aspect désagréable au lycée, où on annonnait bêtement et péniblement sur le Cid ou sur Horace et les Curias, que quand il m'arrive de voir ces pièces-là, j'en ai pour un quart d'heure à me débarrasser de tout ce, tous ces résidus de lycée. Sinon, oui, il y en a d'autres. Certaines pièces modernes, disons des pièces de boulevard, quoi, qui sont bien amusantes. Or là, les auteurs importent peu. Et puis, il y a des pièces plus pensées, oui, ça arrive.
Et, enfin, le nombre de pièces dans une année que vous écoutez, que vous allez au théâtre?
Bien, j'en écoute quand je peux sur France Culture, ça m'arrive assez souvent. De temps en temps à la télévision, quand je sais qu'il y a une bonne pièce, j'essaye de me trouver devant un poste de télévision ce soir-là et à cette heure-là. Et puis au théâtre, c'est assez rare, c'est la même chose. Quand je me trouve à Bourges, bon, il n'y a pas de problème, on va au théâtre parce qu'il y a de bons comédiens, parce qu'il y a une bonne salle. Et là, en 10 jours, j'ai dû voir, je sais pas, 7 ou 8 pièces de théâtre. Et puis pendant un an, je n'en ai plus vu. J'en ai simplement vu à la télévision ou à la radio, disons une par mois, quoi, en tout, entre télévision, radio et théâtre. Peut-être un peu plus dans l'année, mais ça dépend des années.
Oui, oui, d'accord. Compte tenu de... est-ce que vous pouvez me citer les titres des journaux, périodiques ou revues de toutes sortes que vous lisez régulièrement?
Alors, quotidien, je n'en lis pas, j'ai pas le temps. Quotidien néant. J'aimerais lire Le Monde tous les jours, c'est le seul qui m'intéresse un peu. Malheureusement, il faut 3 heures par jour. Ça, je peux pas. Alors, chaque semaine, je lis L'Express.
Oui, L'Express.
Quelquefois d'autres, mais alors là, ça va dépendre de l'affiche. Il va m'arriver d'acheter Match, par exemple, parce qu'il y a un reportage que j'ai envie de voir, puisque c'est surtout des photos dans ces choses-là, ou acheter un exemplaire du Monde ou de... d'autres quotidiens parce que cette semaine-là, ce jour-là, ils vont traiter quelque chose qui m'intéresse. Alors après, c'est surtout sur le plan des mensuels. Mensuel, je lis assez souvent L'Événement. Enfin, je lisais, je ne le lis plus actuellement, malheureusement. Des journaux scientifiques, ça obligatoirement, c'est Science et Avenir, Atome. Science et Avenir, Atome, Scientifique Américaine. J'ai de la peine à lire parce qu'il est en anglais. Je ne suis pas très doué en anglais, malheureusement. Et puis alors, bon, des journaux photos. Tous les périodiques photos qui paraissent, ou à peu près. Ça en fait 4 par mois. Et puis tout un tas de choses. Alors là, ça... Des revues pédagogiques aussi, quand j'en trouve. Et puis des revues sur tout un tas de choses. Ça va me plaire. Du style sélection, je le trouve, je le lis, ou je l'achète. Des périodiques de science-fiction, ça m'arrive aussi. Périodique économique, enfin, quand j'ai le temps, je lis tout ce qui me tombe sous la main.
Oui, enfin, régulièrement, vous avez quand même L'Express.
Très régulièrement, L'Express, des journaux scientifiques.
Oui.
Bon, les journaux photos, mais enfin, ça fait partie de mon hobby. Et puis, disons, des informations économiques prises à droite ou à gauche, mais ça, c'est aussi pour moi très important.
Oui.
Étudier la physique, uniquement pour le plaisir d'étudier la physique, puis pas s'occuper de ce qui se passe autour, sur le plan société, ça serait bien. Et en plus, évidemment, les publications du mouvement de jeunesse auquel j'appartiens, mais enfin, ça c'est secondaire. Ça représente pas beaucoup de pages par mois.
C'est les publications de...
Des Éclaireurs de France. Par mois, on a un journal de responsables, puis les journaux pour les différents âges, quoi, que tous les responsables reçoivent.
Et du point de vue livre, vous me lisez combien de livres dans l'année?
Hélas, pas beaucoup. C'est-à-dire, disons, de vrais livres, peut-être, ça ne doit pas faire 30.
30 maximum. Alors.
Oui, pour maximum. Hélas. J'aimerais pouvoir en lire plus.
Et le genre de livres préférés ?
De tout. Bon, des livres qui ont quelque chose à dire sur un sujet donné. Ça m'arrive assez souvent. Par exemple, sur la pédagogie ou sur, sur une technique que j'ai envie d'approfondir. Enfin, ou simplement un bon livre de vulgarisation. Des romans, ça m'arrive aussi assez souvent. Bons romans et puis toutes sortes de choses. Oui. Quand je peux, par exemple, de bons livres de science-fiction ou...
Oui. Mmh.
Des relations style des relations d'expérience au sens large, expérience humaine, expérience scientifique, tout un tas de choses.
Et quel genre de roman alors en général, des romans classiques ou des romans pas nouveaux?
De tout. Ça, c'est suivant l'inspiration du moment. Je rentre dans une librairie, je vois un livre, il me plaît, je l'achète.
Oui, d'accord. Et y a-t-il un parti politique qui représente bien vos opinions?
Non. On en revient à notre discussion de tout à l'heure. Peut-être une certaine idée d'une nouvelle gauche française, mais il n'y a actuellement pas de vrai parti politique là-dessus. Disons nouvelle gauche. Mais,
oui.
Disons que mon modèle, le système politique que j'apprécie le plus ou que je trouve le moins mauvais, c'est le système suédois.
Suédois.
Bon, on en est encore très loin.
Oui. Suédois. C'est quoi ça exactement le système suédois?
Je crois que ça peut se définir, quel que soit son métier, chacun a de quoi vivre.
Mmh. Hein? Oui, alors, ça va. Mmh. Bon, ça y est. Voilà. Alors, un étranger veut venir en France pour apprendre le français. Dans quelle région est-ce qu'il doit aller, d'après vous?
Il paraît que c'est dans le Val-de-Loire et surtout en Touraine qu'on parle le français le plus pur.
Et dans quelle ville alors?
Eh bien, ce serait tout le Val-de-Loire, de Tours à Angers, disons.
De Tours à Angers.
Blois, Tours, Angers, enfin, en gros.
Oui.
Il paraît que c'est dans cette région-là qu'on parle le français le plus pur et le plus académique.
Uh-huh. Et pourquoi alors dans cette région-là?
Oui, il y a effectivement une raison, enfin, je crois. En sens que les gens de cette région-là n'ont pas un accent trop prononcé. Mmh. Il est bien évident qu'un jeune Anglais aura moins de difficultés à comprendre un Orléanais ou un Tourangeau que, disons, un Ch'timi, c'est-à-dire un gars du Nord, ou un Marseillais.
Mmh.
Enfin, un Marseillais de souche qui lui parlera en patois marseillais. Je sais que personnellement, je n'arrive pas toujours à les comprendre.
Oui.
Maintenant, ça commence à s'estomper. Je vois, par exemple, un Dauphiné bien le parler. Oh, et bien sûr, il y a quelques expressions typiquement dauphinoises qui restent, mais enfin, ce sont des résidus. Le français est presque le même, et l'accent n'est pas énorme.
Ouais.
En Savoie, si, on trouve un accent, puis dans tout l'est de la France, du haut en bas, quoi. Tout le nord, l'est, puis le sud-est.
Le sud-est, oui. Et est-ce qu'il y a des endroits qu'il devrait éviter, alors?
Ben oui, à moins d'avoir envie d'apprendre, justement, à comprendre tous les Français. Bien évident que essayer de discuter avec un paysan, un vieux paysan provençal, c'est peut-être merveilleux pour un jeune français qui arrivera à comprendre. Pour un jeune anglais, ça risque de lui poser quelques difficultés.
Oui.
Même chose avec un gars du Nord ou avec un bruxellois, puisqu'ils ont un peu se parler lourd et.
Oui.
Quoi qu'encore avec les bruxellois, ça soit différent.
Alors la raison. Pour laquelle il doit éviter ces endroits, c'est pour...
C'est-à-dire, s'il ne parle pas bien hein, le français, s'il veut se perfectionner, disons dans un premier temps, il faut qu'il vienne dans une région où on parle sans trop d'accent et avec un français à peu près pur.
Oui.
Et si après il veut encore perfectionner la chose, eh bien qu'il fasse un tour de France.
Hein. Oui, bien.
Et de France, d'Europe.
Oui.
Hein, je pense à la Wallonie ou à la Suisse française.
Mmh. Oui. Et pour bien apprendre le français, quel genre devait-il fréquenter?
Je crois qu'il faut qu'il... S'il veut pouvoir s'exprimer en français, suivant sa spécialité, il faudra qu'il fréquente des gens de même spécialité, du style linguistique ou du style, par exemple, scientifique, c'est vrai.
Mm.
Mais aussi qu'il se mêle à la vie courante.
Enfin, il n'y a pas une classe sociale qui...
Bien sûr, si, dans une classe aisée, c'est-à-dire où on aura un vocabulaire assez important, autant que possible, mais il faut quand même qu'il puisse, ne serait-ce que pour pouvoir discuter dans la rue avec monsieur tout le monde,
oui.
Il faudra qu'il se frotte à des ouvriers, à des paysans, etc., qu'il essaye de les comprendre et de discuter avec eux.
Mmh. Pour qu'il puisse discuter alors à ce moment-là avec tout le monde.
Certainement, oui.
Et est-ce qu'il y a des gens qu'il devrait éviter de fréquenter ?
Oh, je ne crois pas. Non. Personne n'est lépreux dans le plan linguistique. Éviter dans un premier temps les gens qui ont un accent trop prononcé parce que ça le découragera, c'est tout.
Ouais, ouais. Et quelles sont, d'après vous, les difficultés de la langue française pour un étranger ?
On a une grammaire qui est héritée de la grammaire latine, malheureusement, qui est déjà assez difficile pour les petits Français.
Ouais.
Je pense pas que ce soit très drôle pour les Anglais ou pour les étrangers d'un autre pays, venant d'un autre pays. Et puis il y a ces fameux mots qu'on écrit différemment, qu'on prononce de la même manière, qu'on écrit de la même manière, qu'on prononce différemment.
Ouais.
Ça, toutes les langues.
Et encore quelque chose, à part les mots, les homonymes et tout ça.
Oh non, le reste, oui, bah, il y a la grammaire, quoi. Mais enfin, je pense que le reste, après, c'est une question d'habitude.
Oui, oui.
Maîtrise du verbe, maîtrise de la construction de la phrase, bon, bah, ça, il faudra que ça vienne.
Mmh.
Exactement comme lorsqu'on apprend l'anglais, eh bien, on ne le parle pas tel qu'on parlerait du français. Pas de problème, il y a une construction différente.
Oui.
Encore qu'elle soit pas tellement différente, mais je pense à d'autres langues, du style l'allemand ou certaines langues germaniques, qui elles sont très différentes.
Oui. Est-ce qu'on parle bien Orléans ?
Oui, pas d'accent très prononcé, c'est généralement compréhensible, oui.
Oui. Et tout le monde parle bien ? Est-ce qu'il y a des gens qui
parlent bien ? On trouvera toujours les... Si on cherche un peu, on trouvera toujours des gens qui s'expriment d'une manière horrible et incompréhensible. Bon, ben ça, il y en a partout.
Et enfin, des gens qui s'expriment de façon horrible.
Argotique.
Enfin, de façon horrible, comme vous avez dit, c'est surtout quel genre alors ?
Je crois qu'il y a de tout. Moi, je pense pas que ce soit plus dans une classe sociale que dans l'autre. Oui, peut-être dans les classes sociales, disons, qui n'ont pas un gros bagage culturel, quelquefois on trouve des expressions qui sont assez curieuses et difficiles à comprendre, même pour un Français. C'est vrai. Maintenant, si on va dans une certaine classe sociale d'une certaine vieille bourgeoisie repliée sur elle-même, immanquablement, on trouvera des archaïsmes.
Oui.
Alors, ça vaut bon mieux.
Oui. Voilà. Et est-ce qu'à votre avis, le français est une langue difficile ?
Je crois.
Oui. Et en quoi ?
Justement, bon, à cause des raisons que j'ai exposées tout à l'heure, c'est-à-dire la grammaire, puis tous ces synonymes, tous ces mots qui se prononcent différemment ou qui se prononcent de la même manière et qui s'écrivent différemment. C'est peut-être une langue qui est très riche et donc très difficile à acquérir. En ce sens-là, l'anglais est plus synthétique. Il y a certaines expressions, enfin, disons, certains sujets, il faudra 4 mots en anglais pour les traiter, et puis ça sera fini, ça sera défini une fois pour toutes, de manière bien, bien serrée, alors qu'en français, il faudra toute une phrase.
Oui, oui.
Avec les fameux mots composés en anglais, on dit tout un tas de choses, c'est beaucoup plus long à dire en français.
Oui, oui. Et quelqu'un est de passage à Orléans, il vous demande ce qu'il pourrait faire pendant son séjour, qu'est-ce que vous lui conseillez de faire ?
Ça dépendra de ce qu'il est, si c'est un jeune, et puis que... Je suis à Orléans, j'essaierai de lui faire rencontrer d'autres jeunes dans leur vie courante, du style d'un mouvement de jeunesse, voir comment les jeunes vivent entre eux et comment ils s'expriment, puisque là, ce sera un excellent endroit pour s'exprimer, sinon toutes les occupations disons, de monsieur tout le monde.
Oui, les touristes, il n'y a pas quelque chose qu'il faut qu'il...
Bon, je n'aime pas le tourisme au sens où on l'entend habituellement. On voit débarquer un car, enfin, des gens qui sont dans un car avec une hôtesse charmante qui va leur débiter à toute vitesse un commentaire sur les vieilles pierres de la ville et puis en car et on passe au suivant et c'est comme ça qu'on fait un tour d'Europe en 8 jours. Ça, si des touristes comme ça, bon, si ça les amuse, moi pas, et puis je les laisse où ils sont, je n'y vois aucun intérêt. Par contre, celui qui viendra en touriste relax, qui prendra son temps, qui papillonnera un coup à droite, un coup à gauche, là oui, on est dans une région qui est très belle, sur le plan nature, qui en plus, sur le plan historique, possède de fort belles choses. Je pense au château de la Loire. C'est certainement à voir pour un étranger. Il ne faut pas voir que ça, ne retenir que les châteaux de la Loire. Ça serait stupide parce que ça date quand même d'un certain nombre de siècles. Mmh. Dans les activités modernes aussi, oui. Et puis la vie telle qu'elle est en France, actuellement. Oui.
Et quelqu'un frappe à la porte de cette pièce, qu'est-ce que vous lui dites ?
Entrez.
Entrez. Et vous invitez quelqu'un à prendre quelque chose à la maison, qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter ?
Ça va dépendre aussi, si c'est quelqu'un, disons, de mon âge, enfin, à quelque chose près, et puis qu'on se trouve à avoir les mêmes goûts, bon, ben, on va passer une soirée ensemble, et puis je l'inviterai cordialement à venir passer la soirée avec moi, ou passer un moment... On voit quelque chose en écoutant de la musique ou en discutant ou en feuilletant un livre.
Oui, mais comment est-ce que vous y prenez pour l'inviter ? Qu'est-ce que vous lui dites pour l'inviter ?
As-tu envie de passer une soirée avec moi ? Mm-hmm. Veux-tu venir tel jour à la maison, qu'on passe une soirée ensemble ?
D'accord. Et pour une personne plus âgée, enfin...
Ça m'arrive rarement. Enfin, plus âgé, vraiment plus âgé, c'est-à-dire en dehors de mon cercle de connaissances, ça m'arrive rarement.
Oui.
D'autant plus que j'ai un appartement de célibataire.
Oui. Bon. Bon, ben, ça y est, oui. Cette fois, je...